Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Aujourd'hui, on va vous parler de ce qui se cache derrière l'annonce d'Apple. On va aussi parler de POSI. Qu'est-ce que c'est que POSI ? Vous allez voir, c'est passionnant. Et on a également la question, est-ce que les réseaux sociaux sont nocifs pour les enfants ? Est-ce que Instagram, c'est de la drogue ? C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Cet épisode se produit, est enregistré en octobre, le dernier jour d'octobre 2023. C'est le numéro 537 et il vous est proposé par les patriotes qui soutiennent cette émission. C'est grâce à eux et elles que cette émission existe. On a aujourd'hui Lorik Pereira, Erwan Medek, Thibaut Nidley, Nolan, Sébastien, Arnaud Bernard et les producteurs de cette émission, SSI 78 et Peter Rigal, qu'on remercie tous les mois. Merci à vous, merci à tous. Si vous souhaitez rejoindre la formidable équipe, la famille des Patriotes, c'est sur patreon.com/rdvtech. Et quand je dis la famille, je m'inclus dedans. Hein. Moi, je suis quoi ? Je suis l'oncle sympa, l'oncle bizarre, le papa, le grand-père peut-être. En tout cas, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui un compagnon de longue date, Guillaume Vendée. Comment vas-tu, Guillaume ?
Salut Patrick, un très grand plaisir pour te retrouver et rencontrer Cécile pour le Rendez-vous Tech. C'est toujours génial parce que c'est toujours déjà agréable de parler de ces sujets. Et tu sais, à chaque fois, je rencontre des personnes que je ne rencontrerais pas autrement grâce à toi. Et c'est toujours un grand plaisir. Donc voilà, c'est une fois de plus une belle expérience, je pense.
On va parler de Cécile dans un instant. Je voudrais dire quand même, avant qu'on se lance, que normalement, si tout va bien, on va t'entendre encore plus régulièrement qu'avant, en plus d'être là de temps en temps, en plus de... souvent prendre en charge l'un des épisodes qui me permet d'être en vacances et de ne pas être là. Tu devrais être là maintenant tous les mois avec moi. Donc, je suis ému.
Avec grand plaisir aussi. Et tu sais que pour moi, enfin, vraiment, ça me touche, Patrick, et je le dis là devant tes auditeurs.
Attends, j'ai pas un effet spécial émotion.
pas un jingle.
Non, dis-moi. Fais-moi plaisir.
Mais parce que si je fais du podcast depuis 10 ans, c'est parce que tu m'as inspiré, parce que je suis un enfant d'Azeroth.fr et que j'écoute ça depuis longtemps. T'es un peu mon papa spirituel. Donc, tu vois, je suis touché à ce niveau-là aussi.
D'accord. Donc, c'est pas oncle bizarre, c'est papa spirituel. Ça me va.
C'est ça.
Merci Guillaume d'être avec nous. Comme toujours, bien sûr, on te retrouve également sur Tech Café, le podcast qui est certainement le seul podcast meilleur que le Rendez-vous Tech au monde. On a le grand plaisir d'avoir également avec nous Ataxia, alias Cécile, ou l'inverse, qui nous vient avec, je pense, alors je vais l'afficher en plus gros pour ceux qui nous regardent en vidéo, en live, sur Twitch et sur YouTube. On fait du multi-stream maintenant que Twitch l'autorise. Et sur YouTube, alors je ne l'ai pas annoncé avant, mais on a quand même 4 viewers maintenant sur YouTube en multi-stream. Wow. C'est fou.
Probablement les meilleurs viewers du monde.
Ah, certainement. Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont meilleurs sur Twitch ou sur YouTube ? Mais bon, on verra si on continue à faire ce stream. Là, c'était plutôt un test. Mais donc, on a dans le décor de Cécile, je crois, le plus beau décor que j'ai eu. Je faisais des compliments sur le studio de Guillaume tout à l'heure, mais franchement, Cécile, il est sublime. Il doit y avoir quoi, 9, 10 écrans CRT qui ont au moins 20 ans empilés sur des étagères. Il est sublime. J'adore. Bonjour Cécile,
en fait,
bienvenue dans le Rendez-vous Tech.
Merci pour l'invitation. Déjà, oui, c'est marrant parce qu'en fait, on va parler d'Apple aujourd'hui. Et en fait, tout ce qu'on voit à l'arrière-plan, c'est que des Apple. Donc, tu as tous les Mac, les G3, les G4 et tout. Donc, c'est plutôt marrant pour le coup, le décor qui s'accorde avec le podcast.
Quoi. Ah, tu veux dire
en tout
que
cas,
tu
merci
pas...
pour l'invitation. Ah, c'est pas fait exprès du tout.
Tu l'as pas fait exprès. T'as pas refait
non.
tout ce décor juste
là. Ah non.
Très bien, très bien.
Ah, je suis déçu. Moi, je pensais que le décor changeait spécifiquement pour chaque thématique en intervention.
Il y a un peu trop de monde et c'est un peu trop lourd à bouger.
Je comprends. Mais il est sublime. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas?
Bien sûr. Alors, je m'appelle Cécile Morange, je suis connue sur les réseaux, particulièrement sur Twitter, sous le nom de Ataxia Network, mais vous pouvez aussi me retrouver sur Blue Sky, enfin tout ce qui existe à peu près tous les réseaux sociaux. Je suis freelance consultante dans tous les sujets système, réseau, data center. Voilà.
C'est ça. Et tu me disais que tu avais commencé à poster sur les réseaux juste pour le plaisir, et puis que tu en as fait, enfin que ça t'a aidé à trouver des contrats, du boulot.
C'est
donc
ça.
Tu continues et tu as gagné en popularité comme ça.
Cool. C'est ça.
Et donc, tu es vraiment spécialisé sur les réseaux, sur là, on est dans le dur, quoi. On est dans le sérieux. Hein.
C'est ça.
Du vrai hardware. Super.
C'est ça.
Merci d'être avec nous. Et du coup, bah, on se lance immédiatement dans... Est-ce que j'avais un truc à dire avant ? Non, c'est pas grave. On va se lancer dans nos infos. Les jingles, hein. Les gens sont contents quand les jingles reviennent. Évidemment, tout le monde adore. On va se lancer dans le premier sujet. La présentation d'Apple... qui a eu lieu hier soir, à un horaire un petit peu surprenant, où ils ont présenté, on va y revenir, ils ont présenté plusieurs choses, essentiellement leur nouvelle famille de processeurs M3, avec le M3, M3 Max, M3 Pro, qu'ils ont lancé en même temps, c'est une méthode un petit peu différente des précédentes, et des nouvelles machines pour aller avec, des nouveaux MacBook Pro, en deux formats, 14 et 16 pouces, si je ne me trompe pas, et le nouvel iMac qui, lui, du coup, a directement un M3 et qui est une amélioration sensible des versions précédentes. Alors, évidemment, on ne va pas passer énormément de temps dessus, mais évidemment, ils ont détaillé les performances de ces nouveaux processeurs. Ils sont plus puissants en tout point. En gros, ils ont beaucoup comparé au M1, donc deux générations avant, et il y a alors les cœurs de performance sont 30% plus puissants, donc les performances, c'est ceux qui font beaucoup de calculs, les cœurs de, comment on dit efficiency, les cœurs du processeur de, bon, qui consomment pas beaucoup, on va dire, qui permet à la machine pardon ?
Je ne suis pas sûr que ce soit l'appellation exacte. Ce n'est pas les cœurs économes, non ?
Économes, non, ce n'est pas l'appellation. Ouais. Il y en a une qui m'échappe. Mais bon, ils sont 50% plus rapides que le M1. Hein. Ils comparaient surtout au M1, un peu moins au M2. Les performances par watt sont multipliées par 2 ou 3, surtout pour le coprocesseur graphique. Le coprocesseur graphique fait des trucs complètement fous, de l'allocation dynamique de mémoire. Il a une accélération matérielle pour des trucs graphiques, du ray tracing, du mesh shading, etc. Le Neural Engine est plus puissant. Il y a les codecs pour les tout derniers codecs, genre les trucs de YouTube en AV1, etc. Bref. Les processeurs sont très puissants et on pourra y revenir dans un instant parce que certains pourraient dire « bon, bah, c'est un nouveau pros, mais c'est vraiment quelque chose d'important dans l'industrie ». Mais il y a deux choses, deux notes que je voudrais faire. D'abord, l'horaire, je l'évoquais tout à l'heure, ils étaient vraiment en prime time pour les États-Unis, vers 5h, heure de la Californie, 5h de l'après-midi, alors que généralement, ils font ça le matin en Californie. Et c'est un détail, mais on peut imaginer que c'est pour toucher un public qui est un petit peu différent. En gros, on se demande s'ils se disent pas « bon, bah, la tech, de toute façon, ils vont tous parler de nous ». Donc, à cet horaire-là, on va un petit peu plus toucher les gens normaux qui ne sont pas à dévorer toutes les conférences tech à chaque fois qu'il y en a une. Et c'est une décision intéressante, peut-être même que c'était un test, comme je l'ai entendu dans certaines émissions, un test pour voir si ça ne peut pas se reproduire à l'avenir. On verra, mais la décision elle-même, la raison de la décision est intéressante. Et puis, il y a un autre aspect qui est encore plus intéressant selon moi. On vous parlait il y a une semaine ou deux de l'arrivée du RISC-V et en général de la prévalence des processeurs RISC, contrairement aux processeurs Intel, c'est les processeurs ARM, on va dire en général, les RISC, leur arrivée, leur passage du monde des mobiles au PC. Je vous disais, le RISC-V risque de bousculer ça, mais beaucoup de sociétés se mettent aussi à créer des processeurs RISC, comme ARM, AMD, NVIDIA et Qualcomm, qui traditionnellement, Qualcomm, ils font des puces de réseau, c'est leur spécialité, mais ils sont mis à faire des processeurs basés sur ARM, bien sûr, mais qui viennent rivaliser avec les processeurs M1, 2, 3 d'Apple. Et ils venaient d'annoncer, il y a une semaine à peine, une série de processeurs en les comparant aux processeurs M2. Et ils disaient, oui, ils sont plus puissants dans tel et tel cas de 10, 20, 30% que les processeurs M2, qui, rappelons-le, ont une puissance absolument phénoménale pour les appareils mobiles, bien sûr, mais en général, même pour les machines de bureau. Donc, le fait que Qualcomm vienne dire ils sont plus puissants que les processeurs M2, c'est important. Et du coup, quelques jours après seulement, Apple annonce des processeurs M3. je pense que pas beaucoup de monde va encore penser aux processeurs Qualcomm, surtout qu'ils ne vont pas arriver avant 6 mois, 1 an, 2 ans pour que les vraies machines arrivent, parce que Qualcomm ne fait pas ses propres ordinateurs, bien sûr. Donc, c'était la deuxième chose qui me paraissait notable. Mais pour revenir à tout ça, Guillaume, je crois que tu es assez versé dans les sujets Apple. Qu'est-ce que tu as pensé de cette conférence, de ce qu'ils ont annoncé ? Je ne pense pas qu'on ait besoin de passer 10 heures dessus, parce que c'était au final juste une conférence Apple de plus. Mais quand même, dis-moi ce que tu en as pensé.
Que tu es suffisamment versé dans les sujets Apple pour m'être couché après la présentation à 1h30 du matin.
C'est oui, oui. Elle a duré qu'une demi-heure, ça allait, mais elle est passée à 1h du soir.
Je suis un couche très tard, pour le coup. Mais bon, peu importe. Mais oui, en fait, je trouve que le diable se cache toujours un peu dans les détails dans ce type d'annonce parce qu'on assiste quand même quelque part à, je trouve, une accélération de la diffusion des nouveaux processeurs par Apple.
On a entendu du son.
C'était quoi C'était un morceau de la présentation.
C'était un morceau de la conf que je passe.
Ça me rassure. Je ne deviens pas fou. Mais oui, c'est la première fois, comme tu l'as dit, qu'ils annoncent une gamme complète M3, M3 Pro et M3 Max. Et quelque part, moi, je le vois un petit peu comme une accélération. Je le vois aussi comme une accélération qu'ils tentent d'appuyer dans le monde du jeu vidéo parce qu'on le voit à la fois dans leurs références, dans le fait qu'ils aient cité quand même Baldur's Gate 3 là-dedans, qui, je pense, est assez marquant dans le monde du jeu vidéo cette année, et le fait que, systématiquement, les ordinateurs qui ont été présentés physiquement à New York étaient accompagnés d'une manette DualSense de Sony, et l'accent était aussi mis sur des jeux vidéo. Alors, ce n'est pas les jeux vidéo qui vont sortir bientôt ou qui sont juste sortis, quoique Lies of P et puis Stray, notamment le jeu que tout le monde a aimé parce qu'on incarne un chat, qui, a priori, rendent tous les deux très, très bien et sont très, très fluides. Et je pense qu'on peut voir des avancées aussi dans la manière dont vont être interprétés les jeux vidéo sur Mac, et quelque part c'est très souhaitable. Est-ce que l'industrie va prendre le virage? Je ne sais pas. Je ne peux pas m'empêcher malgré tout de me dire c'est dommage, il manque encore une étape, parce qu'à chaque fois qu'on voit les produits Apple sortir et être mis à jour, il y a toujours un regard à porter sur la gamme, et je ne comprends pas le fait qu'ils ne soient pas allés quelque part plus loin. On a des produits maintenant, les studios qui sont en M2 alors qu'on a les iMac et les MacBook Pro qui sont en M3. Je schématise et tout ça. Exactement, dans un monde idéal, en claquant des doigts, j'imagine qu'ils devraient faire ça. Non, évidemment, c'est probablement beaucoup plus compliqué, mais ça crée quand même des petites frictions. Et puis, dernière chose, il y a des bizarreries. Alors, une bizarrerie qui est peut-être un petit peu facile parce que le produit n'est pas encore sorti, mais on a tous en ligne de mire l'Apple Vision Pro qui est toujours, bah, évidemment, à notre connaissance, présenté avec un M2. Alors, ils auront le temps de l'actualiser si nécessaire d'ici la sortie. Mais aussi et surtout, des produits qui, alors qu'on a maintenant des iPhones USB-C et qu'on a bien compris qu'il fallait se mettre au diapason sur les connectiques, des claviers et des souris qui continuent à sortir là, pour les iMac notamment, en Lightning. Alors voilà, c'était un petit peu toutes les petites bizarreries que je regardais en trame de fond de ces annonces et puis dans les réactions qu'il y avait suite à la présentation de ces M3.
Tu as tout à fait raison. Les produits, enfin, souris et claviers qui sont inclus dans les nouveaux appareils. À vrai dire, c'est surtout l'iMac, hein, parce que les MacBook Pro ne sont pas concernés, c'est des portables. Ils sont toujours en Lightning. Alors, certains titres laissaient penser qu'ils ont fait des nouveaux produits qui sont en Lightning. Là, en fait, c'est qu'ils mettent les anciens dans la boîte. J'imagine qu'à terme, ils vont en faire de nouveaux. Peut-être penser un petit peu mieux que cette souris qu'il faut recharger en branchant le truc sous la souris. Donc, on ne peut pas l'utiliser. C'est la grande blague chez Apple. Peut-être un petit peu mieux designé. Et du coup, tous ceux qui ont acheté un iMac devront racheter les produits. Non, ils ne seront pas obligés, mais j'imagine qu'ils vont arriver à un moment. Ils n'étaient peut-être pas encore prêts. Puis, tu parlais de la gamme. Le truc, c'est que c'est des processeurs en 3 nanomètres. Il n'y a pas énormément de chaînes de production qui peuvent produire du 3 nanomètres. Ils l'utilisent déjà sur les iPhones. Je pense, alors c'est un des facteurs, hein, mais je pense aussi que les processus de production rentrent en jeu dans l'idée de... Et puis, on ne va pas tout renouveler à chaque fois, toute la gamme. Un truc, c'est qu'ils n'ont plus de MacBook avec la Light... Comment ça s'appelle ? La Touch Bar.
La Touch Bar, là ?
C'est fini. C'est fini.
Et plus de 13 pouces non plus.
Il n'y a plus de...
13 pouces. C'est plus que du 14.
Ah, de 13 pouces, oui. C'est du 14, mais qui fait la taille du... Qui fait à peu près la taille du 13. Cécile, moi... J'ai bien compris que tu aimais avoir les mains dans le cambouis. Les processeurs M3, on en fait, enfin, les processeurs M quelque chose d'Apple, on en fait toute une histoire. Est-ce que tu y accordes autant d'importance dans l'industrie. Moi, je trouve que c'était vraiment un truc... c'était la plus grosse révolution qu'a amené Apple depuis très longtemps. Est-ce que tu le confirmes en tant que personne qui connaît, qui sait de quoi tu parles, contrairement à moi?
Ou j'en Alors, fais après, un je ne suis pas vraiment experte Apple. Je n'ai jamais eu de MacBook dans les mains, tu vois. Mais clairement, ce qu'ils ont fait à Apple en lançant leur gamme M1, M2, M3, c'est qu'ils ont fait bouger les lignes au niveau des processeurs. Avant, on avait Intel ou AMD. Et aujourd'hui, on commence de plus en plus à avoir de nouveaux constructeurs. Donc, par exemple, Apple avec leur M1. Qualcomm, comme tu disais tout à l'heure, qui commence à faire des CPU. On a toutes les nouvelles architectures RISC-V, ARM qui commencent à arriver. Donc, je pense que le fait qu'Apple ait mis un petit coup de pied sur les constructeurs de CPU, je pense que ça a bien fait bouger les lignes, mais pas que pour les ordi en général. Je pense que vraiment, tout ce qui utilise un CPU, aujourd'hui, il n'y a pas que les ordi et les téléphones, il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'un CPU. Je pense que ça fait bouger beaucoup de choses et que les constructeurs, ils ont compris qu'il y avait peut-être un truc à faire. Peut-être sortir du modèle Intel AMD et faire quelque chose qui s'innove, tu vois.
C'est ça qui est important dans ces annonces, parce que beaucoup de gens vont dire « Oh, bon, c'est Apple, vous parlez tout le temps d'Apple ». Et là, c'est juste des processeurs, mais c'est l'occasion de rappeler qu'avec ces processeurs-là, ils ont montré que les processeurs RISC, donc ARM ou ARM modifiés, peuvent être compétitifs pour les ordinateurs de bureau aussi, ou en tout cas pour les portables, sous Windows. C'est ça qui est important. Il y a toujours eu des machines sous Windows, mais il y a toujours eu des processeurs ARM un petit peu partout, en mobile particulièrement.
Oui.
Mais pour les ordinateurs de bureau et portables, les tentatives avaient quand même été très, très peu fructueuses. Jusqu'à maintenant, on avait Windows RT, Windows 8, Windows 8 ARM, etc. Bon, il faut être honnête, ça ne marchait pas très bien. Là, on arrive à un moment où, même Windows émulé en machine virtuelle sur Mac tourne très bien. Donc, sur parallèle sur Mac, Windows tourne très bien. Et donc, évidemment, il devrait être possible, avec des processeurs de ce type, de faire tourner Windows correctement aujourd'hui. Et donc, c'est ça qu'il est important de retenir. D'autres constructeurs peuvent et sont en train de se lancer dans cette course. Et donc, Qualcomm pourrait avoir un effet important là-dessus aussi, parce que Qualcomm, c'est un gros fondeur. Une autre chose
qui parlait, Patrick. Excuse-moi, tu parlais tout à l'heure de la comparaison avec les M2 de la part de Qualcomm. Et je trouve ça marrant parce que j'ai été aussi marqué de mon côté par le fait qu'Apple comparait les M3, raisonnablement, avec les M1 et les M2 eux-mêmes. Et donc, c'est rigolo de voir qu'évidemment, par effet de rebond, ils positionnent leurs processeurs M1 et M2 comme des références. Et je pense que ce que dit Cécile l'illustre bien avec le fait qu'ils fassent bouger les lignes. Et quelque part, c'est aussi peut-être paradoxal de ma part de vouloir que toute la gamme des produits Apple change en même temps, tous les Mac changent en même temps, parce que Mère Nature est peut-être pas hyper contente de voir... c'est facile comme remarque. Mais peut-être pas très contente de voir que Apple compare les nouveaux processeurs avec des M2 sur des machines qui sont sorties en début d'année, si je ne dis pas de bêtises, début 2023, et quelque part incite au renouvellement. Alors je me fais un peu mon propre avocat du diable, tu vois, sur cette histoire, mais il y a malgré tout une accélération pour moi, comme je le disais, de la sortie des puces qui peut être un peu détonnante. Mais bon.
C'est vrai qu'ils sont allés, je ne suis pas trop les conférences Apple, mais j'ai l'impression que ça a été une conférence... anticipé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est aller vraiment vite par rapport au cycle des conférences, des sorties, surtout des processeurs. Et peut-être un petit peu complot, mais peut-être que Apple a eu peur de quelqu'un. Et peut-être que Apple a eu peur et qu'ils ont dit bon, il faut maintenant qu'on annonce maintenant, parce que sinon on va se faire marcher sur les pieds par les concurrents, je ne sais pas, peut-être.
C'est pas totalement impossible, c'est pour ça que j'évoquais Qualcomm et que potentiellement c'était une réponse. Alors c'est pas une réponse à l'annonce, mais peut-être une réponse au fait qu'ils voyaient les processeurs arriver, parce que tout le monde s'en connaît, et qu'ils se sont dit bon, on va communiquer, parce que beaucoup de gens ont dit ça pourrait être un communiqué de presse, cette annonce. En faire une vraie vidéo, peut-être que c'était un moyen de marquer un coup pour dire non, les chefs dans cette industrie, c'est nous. Les autres comparent peut-être leurs processeurs au M2. Ben nous, on a le M3. Beaucoup de gens ont discuté de cet aspect durable aussi, sur notre Discord notamment. Mais il est intéressant de noter que... Enfin, moi, je pense que les gens normaux ne renouvellent pas leur appareil d'un M2 ou même d'un M1
bien sûr.
À un M3. Bien. Tu vois, ils ont mentionné une fois un processeur Intel en disant... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas genre, ça y est, tu as le M3 qui arrive et tout le monde tombe dans le panneau en se disant « Oh, mon M2, ça y est, je le mets à la poubelle, c'est de la merde !» Non, surtout sur ces machines, encore plus que sur les téléphones, et on le voit aussi sur les téléphones, bah, c'est des machines qu'on va changer toutes les quelques années au minimum. Généralement, les gens qui achètent ce genre de machines, c'est soit des gens normaux, encore une fois, qui gardent leurs machines longtemps, soit des entreprises qui n'ont pas envie de passer du M2 au M3 pour faire plaisir à leurs employés. Je pense que les cycles... Et c'est pas comme si, s'ils n'annonçaient pas de machines sous nouveaux processeurs, bah, tout à coup, ils arrêteraient d'en produire. C'est juste qu'ils continueraient à vendre les machines d'avant, je pense. Alors évidemment, il y a un petit bump, hein, mais je pense pas que ça changerait du tout au tout.
C'est peut-être la raison aussi de l'horaire, en fait, finalement. C'est qu'ils ne voulaient pas faire une vraie grande annonce Apple comme on a l'habitude de les voir, mais juste répondre au côté tech et pas forcément taper le consumer grade, les gens lambda, tu vois. Peut-être pour ça la raison de l'horaire, en fait, finalement.
Peut-être, c'est possible. Une dernière chose à noter.
Une dernière bizarrerie. Vas-y, oui, Patrick, vas-y. C'est peut-être la même chose.
Ah, c'est possible, mais du coup, je te laisse la primeur. Vas-y.
Bon, toujours une petite bizarrerie très, très matérielle, mais sur la version de base du M3, donc pas le Pro ni le Max, mais il n'y a pas la possibilité d'avoir plus de 2 écrans externes nativement. Bon, il y a des solutions un peu détournées pour le faire, mais c'est toujours un peu frustrant. Bon, on voit qu'il y a toujours un peu ces limitations bizarres. Mais quand même, ouais, le truc, moi, qui m'a marqué finalement, mais parce que je l'ai vu cité sur les réseaux sociaux et pas parce que je l'ai remarqué moi-même, il a été repris le fait que l'événement a été filmé entièrement sur un iPhone et édité sur un Mac. Et quelque part, je trouve ça très malin parce que pendant toute la presse, je me suis dit, c'est quand même beau, quoi. Bon, on se le dit à chaque fois avec les vidéos Apple, mais c'était quand même beau de nuit, probablement pas parfait, les éclairages y sont forcément pour beaucoup, mais quand même, quel effet de signature, quel message qu'ils envoient en disant, vous savez, on vous a parlé des nouveaux Macs là, qui sont plus puissants que jamais, qui vont sortir, mais n'oubliez pas, hein, on vous a aussi sorti un iPhone et toute la vidéo que vous venez de voir, on l'a faite avec, et je trouve ça fort d'un point de vue communication, forcément.
C'est vraiment un exemple de la maîtrise du marketing qu'a Apple. Parce qu'effectivement, quand tu regardes la vidéo, tu te dis à aucun moment « Ah, c'est un peu moche ». Tu te dis « Ah bah oui, c'est très beau, c'est très fin ». En plus, c'est filmé de nuit entièrement. Alors, c'est pas un gars qui s'est pointé avec son iPhone qu'il tenait à la main. Hein. On imagine bien.
Il y a de la machinerie derrière l'iPhone. Hein. Il est
de
pas
l'éclairage et tout. Mais c'est vrai que c'est plutôt beau de nuit, avec des effets un petit peu Halloween, avec des trucs qui s'allument, qui s'éteignent, c'est pas mal. Et à la fin, il y a juste une petite mention. Cette présentation a été filmée avec un iPhone 15 Pro Max et montée sur un Mac. Et je ne sais pas combien d'articles j'ai vus sur cette petite phrase à la fin. Forcément. Au niveau du rendement, message, couverture, c'est incroyable. Ils sont vraiment très forts. Ceci dit, quand je retourne voir les images de la conférence... Bon, il y a beaucoup de... il y a quelques images, des vraies images. Il y a beaucoup de graphiques, il y a beaucoup de... Et elles sont belles, hein, les images, mais les captations de personnes. Mais bon, en regardant ça, tu te dis, bah oui, avec un bel éclairage, ça pourrait tout à fait être un iPhone. Ce n'est pas surprenant. Alors qu'en ne le disant pas et en le mentionnant simplement à la fin dans cette petite ligne, après coup, tu te dis, oh waouh, c'était un iPhone et je ne l'ai pas remarqué. C'est magnifique, magnifique.
Ragomodo a raison, hein. D'ailleurs, il rebondit en disant qu'évidemment, il y a de la grosse machinerie derrière, et c'est vrai, quand tu Bien regardes sûr. Les vidéos de tournage, forcément, c'est pas juste l'iPhone que quelqu'un tient à bout de bras, mais il n'empêche, je veux dire, les réflexes qui sont utilisés dans les tournages pro pour des équivalents, sont pas non plus utilisés à bout de bras comme ça, et ça reste malgré tout une prouesse. Après, c'est pas non plus, il faut pas le survendre non plus, mais ça reste chouette, je pense. Oui.
Donc voilà ce qu'on pouvait dire de cette petite conférence Apple. J'aimerais pour notre deuxième sujet qu'on parle de quelque chose de totalement, totalement différent. Et j'espère que ça vous intéressera. J'aimerais qu'on parle du POSI. POSI, je ne sais pas comment on le prononce en français. Est-ce que vous savez ce que c'est POSSE, cette philosophie du web?
Allez, on a préparé l'émission, Patrick. Qu'est-ce que tu veux? Forcément, on est à jour.
Sérieux,
voyons.
Très bien. Bon.
Mais je ne sais pas, Patrick. Qu'est-ce donc que
POSI? On sent qu'il est habitué, Guillaume. Très bien, très bien. Alors, le POSI, c'est une philosophie, une façon de voir le web et le design, l'utilisation d'Internet, qui revient à quelque chose de moins centralisé. Alors, POSI, c'est POSSE. c'est un acronyme qui veut dire publish, entre parenthèses, on your own site, virgule, syndicate everywhere. En français, publier sur votre propre site et syndiquer, enfin envoyer partout. Et c'est un mouvement qui existe depuis un bon moment, hein, avec les gens qui essayent de se décrocher de l'omnipotence des GAFAM, mais pas que des GAFAM, hein, de la philosophie du web centralisé, avec comme principe d'avoir plutôt que différents comptes sur différents réseaux sociaux, notamment, on parle beaucoup de réseaux sociaux puisque c'est la publication des infos et des news, et de vos créations finalement, donc se décrocher de ces réseaux et d'avoir son propre site. Donc dans le monde POSI idéal, tout le monde a son propre site, on publie sur notre propre site, et ensuite, les publications, en fonction de leur nature, si c'est du texte, des vidéos, des images, elles sont publiées sur les réseaux sociaux appropriés. Donc, plutôt que d'avoir des comptes sur Twitter, Instagram, YouTube, Blue Sky, TikTok, etc., on a bien sûr ces comptes, mais ils ne servent qu'à republier ce qui est notre propriété, notre... la publication sur laquelle on a le contrôle. Évidemment, c'est une idée qui est séduisante, peut-être qui est encore plus séduisante chez les gens qui comprennent un petit peu le fonctionnement de toutes ces choses-là, les gens qui sont dans les milieux libres, open source, etc. Mais avec le dernier round de les derniers, comment on dit, les tumultudes des réseaux sociaux, eh ben, elle revient un petit peu sur le devant de la scène. Et il y a des systèmes, il y a des plugins pour des systèmes de blog, il y a des moyens de mettre en place ce système. Alors, je suis curieux, peut-être Cécile, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis, quelqu'un qui est spécialiste des réseaux, qui connaît le vrai Internet, je me dis que tu as une idée là-dessus, une appréciation de, au moins du principe, quoi.
Ouais, bien sûr. Bah, alors moi, ça fait déjà quelques années que j'héberge presque tous mes services dans un quart de baie en data center. Donc j'ai mes propres serveurs, j'ai mon propre réseau, mes propres IP. Donc vraiment la définition de la chose, tu vois. Et en fait, c'est une philosophie qui est très connue vraiment dans le monde du libre, comme tu disais. C'est il faut pas se reposer, comme on le voit maintenant, hein, on voit sur Twitter. Moi, j'ai été très longtemps à poster que sur Twitter tout le temps, tout le temps. Et en fait, finalement, bah, le jour où Twitter tombe, bah, tout ce que tu as fait pendant 4 ans, bah, il a disparu, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'ai mon propre blog. Et alors, je poste pas régulièrement, mais quand je fais des grands articles, des grandes explications techniques, j'essaye de poster sur mon blog, tu vois. Et en fait, moi, je me sers de mon blog comme un point central, on va dire. Et derrière, après, je publie sur Twitter, sur Blue Sky, machin. Là, juste le lien du blog avec une petite mention du titre, tu vois. Et c'est vraiment une philosophie que, en fait, je suis depuis très longtemps et qui est beaucoup suivie dans le monde du libre, en fait. Et là, j'ai vu dans un des articles qui parlait de... le fait divers, alors je sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est
oui bien sûr, Mastodon, Pixel Fed,
c'est ça, exactement, ces et en fait il existe je sais plus comment il s'appelle, Write Ice je crois, qui est en fait un système de blog fédéré, donc qui est plugable dans le fait divers, donc en fait tu peux publier sur ton blog qui va être publié sur ton Mastodon et les utilisateurs de Peertube, enfin tu vois, c'est tout est fédéré. Et ça suit un peu cette philosophie de, tu vois, de la chose, en gros. Mais voilà, en fait, moi, c'est une philosophie que déjà j'applique depuis plusieurs années et qui est très connue dans le monde du libre et de l'open source.
Mais du coup, Cécile, est-ce que... Alors, je vois que tu as ton blog, effectivement. Est-ce que tu utilises vraiment en philosophie POSI, c'est-à-dire, au lieu de poster sur Twitter, tu postes sur ton blog. Alors, peut-être pas chaque... oui, j'ai mangé un
non,
flan,
pas tout le temps.
C'était super bon, mais, mais tu
ça.
Vois, tu postes sur ton blog une photo, un truc... Et c'est reposté immédiatement sur tes réseaux sociaux, ou est-ce que tu te sers plus de ton blog comme point central, mais qui est en fait, plutôt que le fait de reposter ailleurs, ça va être des copies, c'est simplement le centre de la galaxie. Parce que le POSI, c'est vraiment ça. Je ne sais pas si
oui.
Tu vas si loin que ça.
Non, je ne vais pas si loin. C'est dans le sens où, en fait, moi, je vois plus ce truc comme... si jamais Twitter disparaît, si jamais Facebook disparaît, si jamais un service que je ne maîtrise pas disparaît, moi, Taxa Network, si Twitter meurt, j'ai perdu 4 ans de contenu. J'ai perdu 4 ans à poster, à faire du partage et tout. Et c'est dans ce sens où je me dis, les trucs pas importants, le petit tweet fun, bon, c'est pas trop grave, mais les trucs que j'ai appris et que je veux partager aux autres, ça a plus de sens que ça aille sur mon bloc. Moi, je maîtrise, c'est moi qui ai installé, c'est sur mes serveurs, tu vois. Et pareil un petit peu pour tout ce qui est documentation, enfin à peu près tout ce que je partage, tu vois. Moi, j'ai la philosophie de me passer au plus pour les choses importantes des réseaux sociaux et puis juste avoir publié, comme je disais, l'article de blog en mode hey, regardez, j'ai écrit un truc. Voilà, c'est vraiment plus. Je vais pas jusqu'à tout mettre sur mon blog, ça aurait pas de sens, tu vois. Moi, je veux que mon blog, ça soit juste les trucs importants, utiles, éducatifs, tu vois.
Mais alors, du coup, je pense que la philosophie POSI, c'est d'avoir. Alors, peut-être qu'il faudrait deux blogs. Un blog où on poste les vrais trucs et un autre qui serve simplement à recopier ce que tu y postes, même si c'est des petits trucs Twitter, genre j'ai mangé un flan.
J'ai le projet de faire quelque chose comme ça, ouais, mais c'est dans le carton, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est dans le carton.
D'accord, donc voilà, je me demande si ça serait pas plus. Si ça correspondrait
c'est
pas
plus dans cette philosophie, voilà, ouais, c'est ça.
C'est ça. Mais du coup, là je me retourne vers Guillaume, on connaît les amis barbus, les libristes, tu vois, ils ont plein de bonnes idées. Et quand on voit, je vais prendre un exemple. Mastodon, c'est génial. L'idée de Mastodon. On a un réseau à la Twitter, sauf que chacun peut se faire son mini Twitter et ils sont tous interconnectés. On l'a tous suivi, hein, il y a quelques mois, un an, au moment du rachat de Twitter par Elon Musk, Mastodon regagne en popularité, sauf que la réponse de 80% des utilisateurs, c'est « Ah mais attends, c'est compliqué, je comprends pas. » C'est pas compliqué. Faut choisir une instance et créer un compte. C'est tout. C'est tout. Mais pourtant, ce petit peu de friction a suffi à rebuter énormément de gens. Et Blue Sky, qui est finalement exactement la même chose, sauf qu'il n'y a qu'une seule instance, donc c'est très simple, c'est beaucoup plus proche de Twitter, a, en tout cas dans la communauté francophone, tout de suite gagné plus en popularité que Mastodon. Donc, ma question, c'est... Est-ce que ces super idées de nos amis libristes qui sont idéales dans un monde idéal, finalement, ne sont pas bien en théorie, mais en pratique, l'idée d'avoir son propre blog, de faire recopier, de même si tout est fait par une société qui est spécialisée là-dedans et qui vous permet de tout installer pour vous, c'est vous qui avez la propriété de l'URL, de machin, de tout, et vous connectez vous-même vos trucs. Je ne sais pas si... Déjà, tu vois, il y a la moitié des gens qui nous écoutent qui ont check-out, là. Je me demande. Est-ce que...
possible.
Est-ce que ça peut marcher ?
C'est possible. Tu sais, quelque part, c'est une utopie. Et comme toute utopie, c'est très beau. C'est très beau et c'est très noble. Et je pense que tous, autant que nous sommes technophiles, on trouve ça très chouette. Maintenant, si on prend un tout petit peu de recul, et je suis le premier à aimer Mastodon et à dire que j'apprécie les échanges que j'ai sur Mastodon, c'est pas là où je vais avoir un engagement et une visibilité. Et quand on crée du contenu, forcément, ça crée de la frustration. Mais il n'empêche que j'ai des échanges de qualité sur Mastodon et je sens une espèce de sérénité qui est probablement liée d'ailleurs au fait que c'est pas un réseau qui a atteint une taille suffisante pour attirer toutes les personnes toxiques que par la nature intrinsèque du réseau. Bref, mais c'est une très belle utopie. La réalité, quand on prend un petit peu de recul et quand on discute avec des professionnels, des artisans, même des entreprises, pas forcément des très grandes entreprises, mais on pourrait même les mettre dedans, la réalité, elle est au contraire vers une plateformisation. Leurs boutiques, elles sont présentes avant tout sur Google Maps, avant tout en exploitant les fonctionnalités de Google Maps. Il faut générer des avis positifs pour être visible. Il faut actualiser la présence de tes jours où ta boutique est ouverte et fermée pour des jours fériés pour être visible. Il faut remonter par rapport aux concurrents ici. Et la réalité des choses, elle se pose quand même vers une tendance, vers la plateformisation. Et je pense d'ailleurs que l'orientation du moteur de recherche Google avec la manière dont on va peut-être évoluer l'affichage des résultats avec un peu d'intelligence artificielle va encore accentuer ça. Il y a aussi la réalité de quelque chose de très pragmatique, l'hébergement des médias. Aujourd'hui, héberger une vidéo, YouTube rend, quoi qu'on en dise, un service, et c'est Jérôme Kainborg qui l'a suffisamment bien expliqué, assez dingue. Et aujourd'hui, pour remplacer un service comme celui de YouTube gratuitement, il faut se lever tôt. Finalement, j'ai tendance à faire un peu une analogie dans ces pratiques et vraiment, n'y voyez pas de caractère péjoratif de ma part. Mais
Guillaume
pour
défend
moi,
les
relève...
GAFAM
C'est horrible.
Exclusif.
C'est horrible. Non,
contre
je fais une analogie
livre.
Dans la réalité. À mort le livre. Non, surtout pas. Ne clippez pas ce passage. Mais, non, surtout pas. Mais j'y vois un peu une analogie avec les survivalistes, en fait, dans le monde réel. mais tu vois, tu rigoles et moi aussi je rigole, mais avec le temps, J'ai pris un peu de recul avec, regarde, l'hiver dernier qu'on a passé, on était flippés des coupures d'énergie, quoi. Et on commençait à regarder d'un œil un peu moins moqueur les personnes qui anticipent le fait d'être en autonomie numérique, en autonomie sur leur service. Mais j'y fais un peu cette même analogie. Et quelque part, je trouve ça très beau, très noble. Mais dans la réalité des choses, aujourd'hui, ça me semble pas tenable, quoi. Et je me vois pas mettre en avant tout aussi passionnant. Haha, je voulais glisser. Que soit cette pratique, cette démarche auprès de tout le monde. Je pense que ça va concerner une sphère de technophiles bien éclairée, selon moi.
Alors, d'abord, les survivalistes
Désolé
de l'Internet,
pour les survivalistes.
C'est le titre. ça y est, c'est plié. Mais j'aime beaucoup cette analogie parce que, évidemment, je suis le premier à rire des décisions
mais oui,
extrêmes,
mais forcément,
des dispositions extrêmes que prennent ces gens-là. Mais certains pourraient dire, bah oui, vous rigolez, quand ils ont tort, vous rigolez, jusqu'à ce qu'ils aient raison. Et le jour où ils ont
Exactement.
Raison, bah, quand les zombies arrivent, vous avez l'air bien con avec vos... Tu vois et j'irai même plus loin, j'étais le premier à en rire, depuis la pandémie, on a... Alors nous, on vit à la campagne, très isolé, au milieu de la forêt finlandaise, mais on a dans la cave de quoi tenir... Pas des années, mais on a de quoi tenir quelques semaines, tu vois, pour le cas où, je ne sais pas, les Russes passent la frontière, tu vois, il y a toujours un potentiel. Et j'ai même acheté des trucs genre des panneaux solaires pour recharger ton téléphone, un couteau de survie, des trucs comme ça. On ne sait jamais, des fois, s'il faut que j'aille chasser les loups tout seul. Donc, d'une certaine manière, mais je pense quand même que la réalité... c'est que tous ces systèmes sont intéressants, mais par exemple, il y a des soucis avec le POSI, on n'a pas vraiment trouvé encore un moyen de gérer les réponses. Si quelqu'un te répond sur une plateforme, c'est difficile de le voir, ou alors il faut que tu sois partout. C'est effectivement compliqué, mais il n'empêche, je voulais en parler un petit peu, parce que cette philosophie... De plus en plus, au moins de temps en temps, vous le voyez, on parle de RIS5, on parle de POSI, on parle de ce genre de choses qui sont des idées, des changements et des évolutions qui sont intéressantes à connaître pour comprendre, comme toujours, le monde dans lequel on vit et le monde dans lequel on vivra. Donc, je voulais en parler quand même de cette idée qui est quand même intéressante. Puisqu'on parle de réseaux sociaux, je voudrais mentionner que Meta est en train de mettre en place un service d'abonnement à Facebook et Instagram. Ça coûtera environ 10€ et c'est pour se conformer ou faciliter la conformation aux lois européennes dont on a beaucoup parlé, DSA, etc. Donc, il y aura possibilité d'avoir un abonnement à Instagram et Facebook payant qui vous enlèvera les pubs. C'est surtout cet aspect qui est problématique pour, YouTube, pour Facebook. Et d'ailleurs, Threads a un petit peu moins de 100 millions d'utilisateurs mensuels. À son lancement en juillet, ils étaient montés très haut et puis on s'est dit, ça y est, c'est fini, ils ont plongé et on n'en entendra plus parler. 100 millions, c'est pas rien du tout. Donc, ils continuent à travailler dessus petit à petit. En attendant, les copies de Twitter, genre Pebble, anciennement Titou, s'est cassé la gueule. Ils avaient 3000 utilisateurs quotidiens. 3000. Et c'était un réseau auquel tout le monde s'est inscrit. Enfin, tout le monde. Les gens qui connaissent se sont inscrits. Et même Blue Sky, les stats d'aujourd'hui montrent qu'ils ont quoi ? 1,5 million d'abonnés ? 1,8 million d'abonnés total. Donc, c'est pas non plus... On rappelle que Twitter, c'est plus dans les 300-400 millions. Donc, on n'est pas rendu encore. Voilà pour les petites notes en plus sur les réseaux sociaux. Et on passe à notre troisième sujet. Avec un titre un tout petit peu buzzy peut-être, mais puisqu'on parlait d'Instagram et de Facebook, je faisais un TikTok la semaine dernière, toujours dans mes tests de format. Je disais, est-ce que Instagram, c'est de la drogue ? Là, on va me dire, mais enfin Patrick, qu'est-ce que ce titre putaclic, machin ? Eh bien non, figurez-vous que 42 États américains intentent un procès à Meta parce que, selon eux, Facebook et Instagram, le design de Facebook et Instagram est addictif, avec des fonctionnalités comme des notifications permanentes, le scroll infini, des choses comme ça, qui affecte de manière néfaste et surtout disproportionnée les enfants et les adolescents, qui sont moins équipés psychologiquement à gérer ce genre de, d'incitation à continuer à scroller. Le principal argument des États en question, c'est que Meta est au courant, pas juste est au courant que leur produit est fait pour que vous scrolliez dessus, hein, ça bien sûr, mais ils sont au courant que ça affecte les enfants de manière négative et disproportionnée, donc vraiment que les enfants sont plus démunis face à ces mécaniques, et ne fait rien pour contrer ça. Donc c'est vraiment ça le cœur de l'argument, c'est qu'ils sont au courant et qu'ils ne font rien. Et donc, évidemment, on va tout de suite penser à, je sais pas, de l'alcool, les fabricants de cigarettes qui étaient au courant que le tabac était néfaste pour la santé et qui n'avaient rien fait, etc. Je vous avoue que moi, au début, quand j'ai entendu cette idée, qui n'est pas nouvelle, mais là, vraiment, c'est des vrais procès. Hein, 42 États américains, c'est énorme. Ce n'est pas encore un procès au niveau fédéral, mais enfin, c'est substantiel. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ouais, bon, c'est bon, quoi. Enfin, ils font un réseau social, quoi. Et puis, plus j'y pense, plus je me dis, mais si vraiment psychologiquement les enfants sont plus démunis et que... Est-ce qu'il n'y a pas... Cécile, est-ce qu'il n'y a pas une logique cohérente derrière ou est-ce que c'est un petit peu... bah non, c'est le boulot des parents et puis c'est normal qu'ils fassent un truc qui est cool qu'on a envie d'utiliser. Je suis 80% sûr, mais 20% pas sûr. Je ne sais pas si toi, tu pourras me faire grossir la partie qui doute, quoi. Fais-moi le.
Alors moi, je suis un peu pareil, je suis un peu mitigé.
Ouais.
Un côté. Alors, moi, j'ai fait l'erreur d'installer TikTok. Grosse erreur. Parce que c'est super addictif, ce truc, en fait. Et on ne se rend pas compte. En fait, j'avais un peu lu sur ces sujets et comment ça fonctionne sur le cerveau. En fait, le fait d'avoir des petites vidéos à l'infini, que tu es tout le temps de quoi scroller, du contenu en permanence, tout le temps, du contenu qui va vite, en plus. En fait, ça génère un truc qui s'appelle de la dopamine. Et en fait, ça rend ton cerveau content, en gros. Il est content d'avoir du truc, du coup, il continue à scroller, à scroller, à scroller. Et moi, ça m'est arrivé sur TikTok. Des fois, j'y passe une heure et demie, je suis en mode, mais... ouais, une petite dernière vidéo. C'est super addictif. Et ouais. En fait, c'est pas Meta qui a inventé ce truc, c'est TikTok. C'est TikTok les premiers à inventer le concept de fil infini. C'est juste que Instagram a copié avec, je sais pas sur Instagram, je crois que c'est les Reels,
les
ça
Reels,
s'appelle.
Ouais.
C'est ça. Et même YouTube s'y est mis avec les shorts. Mais c'est parce que le concept marche et qu'ils savent que ça attire l'attention et que les gens restent dessus. C'est pour ça qu'ils ont copié le concept, en fait. Et oui, je suis d'accord. D'un côté, quand moi je suis contre que les jeunes de 12-13 ans soient sur les réseaux, tu vois, je trouve que c'est une zone dangereuse où les petits qui n'ont pas encore l'objectivité, on va dire ça comme ça, tu vois, d'y aller. Mais d'un autre côté, enfin, il y a un peu les deux. D'un côté, je dirais que ça serait aux parents d'éduquer, mais même si les parents ils savent pas. Comment les parents puissent éduquer, tu vois, c'est ce que je veux dire. Il faut qu'il y ait de l'éducation.
Ils n'ont peut-être pas le contrôle, en plus, facilement.
C'est ça.
Bon, on a des contrôles parentaux assez solides aujourd'hui, mais...
Ouais, mais t'as plein de parents, je suis sûr, qui ne comprennent même pas les concepts, donc ils donnent le téléphone, ils s'en foutent. Donc, il faut éduquer en même temps les parents et les enfants, de leur dire, ouais, attention, enfin, je ne vais pas aller jusqu'à dire nocif, mais enfin, il faut que ton cerveau fasse autre chose aussi que scroller toute la journée sur TikTok ou Reels ou whatever truc qui fait des vidéos. Ouais, ouais. Et de l'autre côté... je pense qu'il y a une part de responsabilité que les gens ne sont pas éduqués aux conséquences, on va dire, de la dopamine qui run en permanence dans ton cerveau parce que tu scrolles tout le temps. Et de l'autre côté, les plateformes qui sont un peu conscientes du truc. Alors, je sais que par exemple sur TikTok, quand tu scrolles un peu trop, au bout d'un moment, t'as un petit truc qui s'affiche qui s'appelle les pouces cassés. Il te dit, ouais, fais une pause, ça fait longtemps que tu scrolles. Et ça, en fait, je trouve ça vraiment cool que TikTok a implémenté. C'est attention, c'est pas un moment que tu scrolles, enfin, fais une pause, fais autre chose, voilà. Et je pense que Meta, alors je n'utilise pas Reels, donc je ne sais pas. Je pense que Meta n'a pas implémenté ce truc. Et que justement, Meta, ça fait longtemps qu'on sait que Meta, il joue avec les gens, avec l'analyse des données, Cambridge Analytica. Enfin, c'est pas nouveau ce truc. Et je pense qu'ils se servent de ce truc justement pour que les gens restent sur la plateforme, que ça fasse du truc, quoi. Enfin, tu vois, du contenu.
C'est pas que les vidéos, hein, soyons clairs. Quand il parle du procès, d'ailleurs, il ne parle pas spécifiquement de TikTok dans ces procès-là. Mais il ne parle pas que des vidéos. Hein. Il parle aussi des notifications qui t'appellent à revenir.
Oui, bien sûr.
Etc. etc. Mais oui, tu as raison. Et le problème, c'est qu'ils savent que ça affecte les enfants. On a beaucoup parlé des questions de... C'est la dysmorphie qui affecte plus particulièrement les jeunes filles en voyant ce qui est posté sur Instagram, etc. Mais du coup, bon, si on veut un tout petit peu se faire l'avocat du diable encore une fois, et Guillaume a l'air assez versé dans l'exercice, en même temps, c'est normal que Meta fasse un produit qui est populaire, qui plaît. Est-ce que on pourrait reprocher à un producteur de télé de faire une série qui plaît? Est-ce qu'on pourrait reprocher à un restaurateur de faire des plats qui sont bons? Est-ce qu'on peut reprocher au sucre d'être le sucre? Tu vois, Facebook, c'est normal qu'ils fassent le mieux qu'ils peuvent pour que leurs utilisateurs aient du plaisir à utiliser leur plateforme et qu'ils y reviennent. C'est pas la responsabilité des parents, finalement.
Eh ben, on va voir, mais tu le mettais dans les notes de l'épisode, c'est comme les fabricants de cigarettes, et je pense que tu parles du sucre, qui est une industrie qui a eu exactement les mêmes comportements que l'industrie du tabac. Et je me rappelle être tombé, il faudrait que je le retrouve, un super documentaire qui mettait en exergue leurs pratiques, notamment l'industrie du sucre, et qui montrait qu'avec le temps, ils nous avaient convaincus que le sucre, c'était l'énergie, quoi, alors que le gras, ouais, c'était le mal. Alors qu'évidemment, tout ça est extrêmement schématique et très était évidemment très partial. Je crois qu'en fait, malgré tout, quoi qu'on en pense, on est face à un problème ou à un risque de problème, mais je pense de problème de santé publique. Mmh. Et ça touche pas à la santé physique des gens, mais ça touche à la santé mentale qui est peut-être, j'aime pas faire des comparaisons, mais peut-être au moins aussi grave que des problèmes de santé physique. Évidemment, faire des comparaisons de risques est un peu débile, mais malgré tout, c'est fort, c'est là, et je pense qu'il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour ne pas considérer qu'il y a un problème. Maintenant, à qui la faute? Et c'est un petit peu ce que tu poses comme question.
Oui.
À qui la responsabilité? Et je pense que comme tout gros problème de santé publique, comme tout gros problème tout court, y a une multitude de causes. Et évidemment, il y a les entreprises, les industries qui aiment l'argent et qui aiment capitaliser sur ce qui leur donne de l'argent et qui ont besoin de grandir.
J'ai un truc pour ça.
Tu le glisses vite fait. Je ne t'avais pas préparé.
Voilà, deux fois.
Mais il y a les entreprises, évidemment, il y a les États et les lois. Et en France, on rappelle que les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans. Combien d'enfants de moins de 13 ans utilisent quotidiennement Snapchat, TikTok ou d'autres applications pour réseaux sociaux? Énormément. On a l'environnement éducatif qui est couvert à la fois par les enseignants qui
Excuse-moi,
ont...
Excuse-moi, je t'interromps pour dire un truc. Dans les conditions d'utilisation de ces réseaux, on ne peut pas avoir moins de 13 ans pour les utiliser. Donc, c'est pas juste en France. C'est Meta. Tu vois, si on parle de la responsabilité, on peut pas dire ça sans dire Meta, pour Facebook, exact, et Instagram, etc., normalement, interdit l'utilisation eux-mêmes aux enfants de moins de 13 ans.
Bien sûr. Bien sûr. Et ils se mettent en conformité avec un certain nombre de dispositifs légaux, malgré tout. Tu as raison. Mais il y a aussi, évidemment, la composante de l'éducation qui est incarnée à la fois par les écoles. Et honnêtement, le monde enseignant n'est pas bon là-dessus parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas les ressources.
Guillaume Vendée à techcafé.fr.
C'est horrible. Et les parents, moi, je me mets dedans. J'ai un garçon de 11 ans. On a résisté pour qu'il n'ait pas de réseaux sociaux, à ma connaissance. Je pense que ça tient malgré tout. Mais c'est extrêmement difficile. Et pourquoi? Parce que tout cela est allé très, très vite. Et parce qu'on n'est pas armé, on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources. Donc, il y a un côté un peu vieux con de ma part. Mais je pense que c'est multifactoriel. Est-ce que c'est bien qu'ils se prennent un procès dans la tête de la part des États aux États-Unis, comme tu le décrivais sur la news? Finalement, je me dis que c'est quand même bien. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Clairement pas. Enfin, je pense que c'est pas suffisant.
Je crois que j'ai pas vraiment ma réponse. donc pas merci à tous les deux. Hein. Mais non. Mais par contre, ce que vous dites est intéressant et je crois que le fait qu'il y ait un procès effectivement pourrait nous apporter cette réponse parce que il y a une responsabilité, c'est certain. De quelqu'un, de qui, on ne sait pas. Est-ce que c'est simplement aux parents d'éduquer? Et encore une fois, la raison pour laquelle le procès est particulièrement... parce qu'on dit les réseaux sociaux pour les enfants, ce n'est pas bien. On le dit depuis des années. Et est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est Facebook? On le dit depuis des années. Là, encore une fois, la chose qui est différente, c'est que Meta sait, selon les États encore, selon le procès, ce n'est pas avéré, mais Meta sait qu'il y a un effet... néfaste sur les enfants et ne fait rien pour y remédier. Donc, c'est une manière qui est assez intéressante de poser le problème et le procès est là pour répondre à la question posée. est-ce que, effectivement, parce qu'effectivement, si on la pose de cette manière, est-ce que Meta sait que leur produit a un effet néfaste sur la santé mentale des enfants et ne fait rien pour aider ? Ah oui, là, on se dit, OK, il y a peut-être... Je pense que là, on tombe tous d'accord. Si la réponse à cette question est oui, là, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire, bon, bah, faut au moins qu'ils fassent plus. Je suis sûr que Meta, enfin que Instagram et Facebook vont dire oui, mais vous, enfin, on a telle et telle disposition, tel truc qui fait ça. Ah bah peut-être, on verra. Et là, le procès, les procès, nous aideront peut-être à y trouver une réponse. Et voilà pour nos sujets principaux. On va continuer bien sûr l'émission. Avant ça, vous savez que ce moment arrive. De quel moment est-ce que je parle ? De quel moment parle-je ? Le moment où je vais vous parler de clés et de bol. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, vous écoutez l'émission. Vous vous dites « Oh, il est sympa, Patrick. Oh, ils sont sympas, ces invités. Je pense que ça serait cool que cette émission continue. » Dans ma tête, vous êtes tous jeunes, hein, évidemment, et fringants. et vous vous dites « Ça serait cool qu'elle continue l'émission. Je l'aime bien. » Ou tout simplement « Oh, bah, ça m'apporte quelque chose. Des connaissances, du divertissement. » Des connaissances et du divertissement en même temps. C'est pas facile de faire intéressant et divertissant en même temps. Vous savez combien de travail je mets dans mes blagues ? J'y pense au moins 2 minutes par émission. C'est long, 2 minutes. Donc, si vous pensez que vous vous amusez bien et c'est intéressant, peut-être que ça vaut même carrément un peu de sous. Patreon.com/RDVTech. Je vous réveille un peu, excusez-moi, je fais du bruit. Patreon.com/RDVTech pour soutenir l'émission, pour rémunérer le travail à sa juste valeur, peut-être 1 euro, 2 euros, 3 euros, soyons fous, plus. Eh bien, vous pouvez décider, vous avez le contrôle, c'est un petit peu le possi du financement, vous avez le contrôle, patreon.com/RDVTech. Merci à tous et à toutes. Et pourquoi je disais clé et bol ? Parce que là, vous êtes dans le métro, vous êtes en train d'écouter au boulot, en faisant semblant de travailler parce que votre boss est juste derrière. Vous ne pouvez pas tout de suite, enfin, vous pourriez, soyons honnêtes, vous pourriez aller vous inscrire, ça prend 2 minutes. Mais si vous ne le faites pas, quand vous rentrez chez vous, vous avez des clés. Quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans un bol, vous avez un bol, clé dans le bol, cling. Ah, Patrick ! Pavlov. Patrick, vous pensez à moi, patreon.com/RDVTech. Merci à vous tous et à vous toutes de soutenir l'émission. Eh, freestyle, franchement, je pense que je peux commencer à faire des vidéos de comédie sur TikTok. Je suis prêt. Merci à tous et à toutes, patreon.com/RDVTech.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les gens qui écoutent le podcast en flux privé et qui n'ont pas ces promotions du Patreon, je pense qu'ils servent parfois, pas toujours, hein, mais parfois ils ratent quelque chose. Sujet suivant, on revient un petit peu sur Apple et sur cette histoire de Apple Watch carbone neutral. Eh bien, on parlait des efforts environnementaux d'Apple ces dernières semaines. Et je pense qu'il est assez avéré qu'Apple fait bien, ou en tout cas fait mieux que tous les autres constructeurs. Par contre, spécifiquement sur cette annonce de l'Apple Watch dans ce modèle est neutre en carbone, eh bien, on a une nouvelle étude qui, en gros, ce qu'elle dit, bon, vous allez un peu vite en besogne parce qu'une bonne partie de votre neutralité carbone, elle est obtenue par des... Ah zut, j'ai le mot qui m'échappe. Par des compensations par des crédits carbone. Et ça, désolé les gars, mais ce n'est pas vraiment carbone neutre. Donc, ça n'est pas juste. Et comme vous le savez, la justesse mène à la justice. C'est un des prétextes, des préceptes du Patrixme hein, que tout le monde connaît. La justesse mène à la justice. Ça n'est pas juste de dire ça. Donc, il faut arrêter de le dire. En tout cas, le rapport est assez clair là-dessus. Je voulais le mentionner parce qu'on en parle beaucoup depuis ces dernières semaines. Oui, pour la durabilité de leurs produits et tout ça, ils font bien. Mais la montre neutre carbone, pas vraiment. Non. En tout cas, ça a l'air d'être...
C'est un nouvel exemple. Hein. C'est un nouvel exemple de complémentarité qui est vraiment un fil rouge, je pense, dans l'actu tech de toutes ces dernières années, de toute manière, et peut-être même dans toute l'histoire de la tech, de complémentarité entre ce que font les entreprises privées et les encadrements légaux. Parce qu'il y a là aussi une loi hein, qui a été adoptée, la loi climat et résilience, qui interdit purement et simplement les entreprises à communiquer avec des termes qui seraient un peu flous, tu vois, les trucs verts, les trucs de transition écologique, etc. Bah, maintenant, désormais, quand tu affirmes ce genre de choses, il va falloir le faire que si tu as des éléments tangibles pour le prouver. Et effectivement, bah, ça va aider aussi à clarifier le sujet, je pense. C'est un peu dommage qu'on se retrouve à taper sur Apple, qui fait malgré tout des efforts, je pense, mais probablement que c'est un petit peu... Ouais, c'est ça.
Effectivement, cette loi est spécifique à la France. L'Union européenne allait trop lentement, donc la France a pris les devants. Il y a fort à parier qu'elle soit adaptée au droit européen dans les années à venir. Mais tu as raison, cette loi que je connais, on n'en parle pas du tout, je ne sais pas pourquoi, mais elle est vraiment sévère. Et je la connais parce que ma femme a travaillé avec. Et c'est vraiment une loi anti-greenwashing. Si on veut la bouillir à sa plus simple expression, comme on dit en anglais, c'est une loi anti-greenwashing. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire du oui. greenwashing, on n'a pas le droit de dire « c'est vert, c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'environnement ». Non, il faut dire « on utilise X% de plastique recyclé dans notre produit, on utilise tant de… » Voilà, ça doit être précis. Le truc, c'est que je pense que légalement, les crédits carbone… J'imagine, hein, là, je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais j'imagine que légalement, les crédits carbone existent, comptent, et donc, pour Apple, tu vois, ils sont dans les clous. Même si,
ouais, bah,
le problème, c'est que les crédits carbone, c'est pas top, quoi. Ça fausse les pistes. Parce qu'effectivement,
on n'en parle pas beaucoup en... Excuse-moi, on n'en parle pas beaucoup en public. Dans des entreprises, je peux te garantir que dans les services com, l'info a très bien circulé.
Sûr.
Et il y aura un avant et un après, c'est clair. Et on s'en rendra peut-être pas compte en tant que consommateur. Mais bon.
Non, mais je suis complètement d'accord. Dans les services juridiques de toutes les entreprises qui travaillent en France, je peux te garantir que depuis un an, ils carburent à double ou triple vitesse. Hein, parce que c'est vraiment une loi hyper importante pour la communication sur les sujets. La communication peut changer. Bref, on en parlera peut-être un jour plus précisément. Mais pour rester avec Apple, je veux parler de Netflix. Pourquoi ? La semaine dernière, au détour d'un sujet qui me paraissait totalement anodin, on a parlé une demi-heure de Netflix et de son augmentation de prix. Je ne vais pas refaire tout le cirque. Ce que je disais, c'est que bon, bah, Netflix, ok, ils augmentent leur prix, mais au moins, contrairement aux câbles et aux satellites, eh ben, les prix sont plus modestes, certes, mais surtout, on peut s'arrêter quand on veut. Et ça a créé une discussion interminable, y compris sur le Discord. On en parle encore une semaine après. On se dit « Oh, machin, néolibéralisme, non, mais enfin, communisme, qu'est-ce que l'État doit intervenir ?» En tout bien, tout honneur, on discute avec beaucoup de passion, mais c'était vraiment intéressant. Et tout ça parce que je disais « Bon, Netflix augmente ses prix. » C'est pas que ça va, ça fait plaisir à personne de payer plus, mais il y a un contexte qui fait que c'est pas aussi grave que certains le disent, à mon sens. Surtout qu'entre parenthèses, il y a un abonnement à 6 euros à Netflix. Hein. Ok, il y a de la pub, mais 6 euros, c'est le plus... Tout le monde se concentre sur l'abonnement à 20 euros, qui est cher, enfin, encore que. Mais il y a aussi un abonnement à 6 euros. Donc, si vraiment c'est une question de bien-être social d'avoir Netflix, alors je ne sais pas si 6 euros, il faudrait... C'est encore scandaleux que ça soit à 6 euros. Est-ce qu'il faudrait que ça soit gratuit ? Je ne sais pas. Bref. Du coup, Apple augmente ses prix aussi. Qu'est-ce que va dire Patrick ? Apple TV Plus, ça passe de 7 à 10 euros. News, alors ça, c'est pour les États-Unis. Ah, pardon, je parle en dollars. Mais donc, les prix augmentent sensiblement. Apple Arcade de 5 à 7 dollars. C'est plus en euros, évidemment, avec les taxes, etc. Du coup, c'est la même chose ? Bah non. Pour moi, c'est pas la même chose. Alors, ne dis pas que c'est un scandale, mais la différence avec Netflix, c'est qu'il y a chez Apple un écosystème qui fait qu'on peut facilement vous attirer dans une toile d'araignée de matériel et de logiciel dont il est difficile de s'extirper. Alors encore une fois, je ne dis pas que c'est la fin du monde chez Apple. Oh là là, ils nous ont pris, ils nous ont filé la première dose gratuite et maintenant on ne peut plus se... Non, c'est pas de la cocaïne, quoi, n'exagérons pas. Mais ça me gêne un peu plus, cette lente augmentation des prix chez Apple, que chez d'autres qui sont totalement indépendants et qui peuvent être arrêtés en isolation. Donc, bon, je ne vais pas descendre manifester dans la rue non plus parce qu'Apple augmente le prix d'Apple TV+, mais je trouve quand même que c'est un petit peu différent. Puis il y aurait d'autres choses à dire avec le fait qu'ils contrôlent l'écosystème plus que Netflix, etc.
Non, c'est bon, on a compris, t'es plus un fanboy d'Apple que de Netflix.
Mais grave. Non, je dis que c'est pire, je dis que c'est un problème chez Apple. Tu vois ?
Mais justement, ça te scandalise plus, ça veut dire que tu trouves ça encore plus choquant, tu vois.
Certainement. Non, t'es abonné Netflix, Cécile ? Pardon.
Non, moi, j'ai pas d'abonnement du tout.
Ah, aucun.
J'ai fait les méthodes à l'ancienne. Qu'on ne peut pas parler en public.
D'accord, je vois. Mais tu sais, c'est marrant parce que j'en parlais et je disais également la semaine dernière. Le levier du piratage, même s'il est illégal et tout ça, il existe. Et c'est un contre-pouvoir pour ça. Et je pense que moi, si ce levier n'existait pas, tout illégal qu'il soit, ça me poserait plus de problèmes que les prix augmentent. Mais comme il y a ce système de balancier...
Ouais. Dit...
Bon, en tout cas, on voit que sur ces vieux CRT qui sont dans le fond... Il y a des séries qui doivent passer quand même aussi. Le G3, je vois un beau Mac G3 derrière.
Ouais.
Magnifique. D'accord. Tu voulais ajouter quelque chose, Guillaume ?
Oh non, enfin, moi je suis plus team Patrick, mais jusqu'au boutiste, tu vois, c'est-à-dire que même pour Apple, j'ai tendance à tenir la même position. Le seul truc qui m'embête, c'est que tu citais juste l'alternative avec publicité, et ben, factuellement, c'est vrai, il y a des alternatives avec publicité qui sont moins chères. Je peux pas m'empêcher de trouver ça un peu gênant, tu vois, de se dire qu'il y a deux vitesses, ceux qui peuvent se permettre des abonnements et ceux qui sont obligés de subir... le cancer d'Internet, quoi, tu vois, la pub. Je peux pas m'empêcher d'être un peu gêné par ça. Mais au-delà de ça, j'ai pas de réponse, tu vois, j'ai pas de préconisation, j'ai pas de bonne solution. C'est juste un constat que je fais.
Je veux pas te choquer, mais il faut pas que t'ailles regarder du côté, par exemple, d'industries vénérables comme la télévision, ou tu vois, les magazines, ou les journaux, ou la radio... Tu risques d'avoir un petit moment de tu vois, tu vas être surpris de la manière dont ça marche, hein, ce genre de...
On n'a jamais autant mis en opposition, si tu veux, deux modes de consommation d'un même média et d'une même culture. Et encore, tout ça est à prendre avec de grosses pincettes parce qu'on parle de 3 euros de différence avec de la pub et ce n'est pas des proportions qui vont plus loin que ça. Mais je trouve que ça met en opposition de vitesse, quoi. La possibilité de s'acheter le média sans subir la pub ou de l'autre côté... Bah parce qu'on n'a pas les moyens de subir la pub. Bon, mais voilà, mais tu as raison, évidemment, c'est pas nouveau tout ça.
Oui, parce qu'avant, on n'avait pas le choix. Il y avait la pub et c'est tout.
Exactement.
Oui.
Encore qu'il y avait Canal+, tu vois, Canal+, tu n'avais pas de pub si tu payais.
Exact.
Et le câble, certaines chaînes. Google est en train de mettre en place son système About This Image, qui vous donne des informations sur une image que vous cherchez ou que vous trouvez sur le web, ce qui est extrêmement pratique pour détecter des images qui ont été réutilisées à mauvais escient dans des fake news, etc. Donc, c'est un outil qui est tout bête, mais quand on trouve une image sur Google, on a le petit menu avec les trois points, on clique dessus et on a « About this image », donc à propos de cette image, et on va avoir des informations sur la première fois que Google l'a trouvée, d'où elle vient, etc. C'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est hyper pratique pour combattre la désinformation.
Il y a Leica aussi qui propose un appareil photo, l'un de leurs derniers, ils ont annoncé ça, qui intègre des espèces de certificats d'authenticité de la photo qui a été prise avec le réflexe. Évidemment, tous les sujets d'intelligence artificielle générative pour l'image va poser plein de questions et va laisser plein de place à plein de propositions. Je ne sais pas ce qui sera retenu, ce qui sera efficace au final, mais c'est cool de voir qu'il y a quand même ces initiatives, c'est normal.
Google aurait payé... Alors, imagine, Cécile, que tu n'as pas préparé l'émission. n'a pas lu tous les... Il y a combien ? 250 articles. Imagine hein, que tu ne les as pas tous lus de fond en comble. Je me doute bien que tu les as tous lus à la lettre près. combien, ne regarde pas l'écran, combien est-ce que tu imagines que Google paye à Apple pour rester le moteur de recherche par défaut sur ses produits par an ?
Alors, ça tombe bien, je ne l'ai pas vu.
Ah, parfait.
Je dirais déjà en milliards, j'imagine.
Ok.
Un truc comme 10 milliards.
Ah, pas mal, pas mal, pas mal. J'avoue que 18 milliards, en tout cas, c'est ce qui semble
apparaître. Ah oui, presque le double quand même. Hein.
2021, 18 milliards pour que Google reste le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple. C'est dans le cadre du procès contre Google. Je vous disais qu'aux États-Unis, ils commencent à se bouger contre les GAFAM, ou en tout cas à regarder ce qu'ils font d'un petit peu plus près. Et la dominance de Google et l'abus de position dominante éventuellement, 18 milliards pour rester moteur par défaut. On parlait des potentielles velléités d'Apple de devenir un moteur de recherche à terme peut-être. Et Google semble en être très conscient et il paye ces prix-là pour être le moteur de recherche par défaut sur les plateformes d'Apple. Moi, j'avoue que je n'imaginais pas que c'était autant. Mais effectivement, 18 milliards, ce n'est pas rien. En parenthèse, ils ont payé à différentes plateformes quelque chose comme 20 ou 25 milliards par an. Je ne sais plus combien il y avait. 26 milliards par an en 2021 sur différents navigateurs, téléphones, plateformes, etc. Bon, après, ils font je ne sais plus combien de fois ce chiffre.
C'est ça, c'est deux titans. Donc bon, après tout... Pour eux, c'est rien, peut-être. Hein.
C'est ça. Ah bah, c'est sûr que c'est rien, ou en tout cas que ça vaut le coup financièrement.
Mais oui, c'est... clairement. Sinon, on ne l'aurait pas fait.
Parlons un petit peu de régulation encore, ou en tout cas d'action des États et des organismes étatiques. Les Nations Unies ont créé un advisory body, donc un comité de conseil sur l'intelligence artificielle. Il y a 39 personnes, dont des académiques, enfin des chercheurs, des gens de l'industrie, des hommes et des femmes politiques, etc., pour les conseiller sur les décisions à prendre sur l'intelligence artificielle. On a également l'administration Biden qui a signé, enfin le président Biden aux États-Unis qui a signé un executive order détaillant le travail des agences gouvernementales sur la manière de traiter l'IA, de l'utiliser, de gérer les travailleurs, etc. En gros, on commence déjà à avoir des effets relativement concrets de l'IA sur les gouvernements, ou en tout cas de la manière dont les gouvernements réagissent au potentiel disruptif de l'IA. On l'a évoqué ici et là, mais dans l'émission par le passé, là, on commence à avoir des choses vraiment concrètes. En tout cas, je ne sais pas si on peut dire des prises de décision, ce n'est pas des prises de décision, mais des préparations concrètes à la connaissance du milieu et des potentielles prises de décision plus tard. Je me demande si vous avez un avis, peut-être que je me retourne vers Cécile encore. Le potentiel de l'IA, tout le monde le connaît, tout le monde l'imagine, je dirais. Est-ce que tu penses que les gouvernements agissent assez vite, assez bien, trop vite peut-être ? Peut-être que c'est une tendance qui va disparaître, une mode. Est-ce qu'on gère les choses bien ? On a tendance à dire que les gouvernements souvent font n'importe quoi, font mal. Enfin, je sais que c'est une idée populaire à laquelle je ne souscris pas, moi. Mais quel regard tu portes sur la manière dont les gouvernements réagissent à l'IA, sachant que c'est un truc qui n'est pas facile à gérer, quoi.
Bah, je pense que déjà, je dirais pas jusqu'au mot agir, mais je pense que déjà, ils ont pris conscience que l'IA, ça va être quelque chose qui va peut-être révolutionner notre quotidien, notre manière de faire, enfin, ça va révolutionner beaucoup de choses. Et je pense que c'est déjà important qu'ils aient pris conscience assez tôt. Enfin, l'IA, ça a déjà quelques années, je pense, quelque chose, mais ça a vraiment explosé. Bah,
vraiment, l'IA
générative, ces dernières années.
C'était l'été 2022, on va dire. Avec,
oui, ça a vraiment explosé il y a à peine un an. Et je pense que. Ils ont vraiment agi, pour un gouvernement, je trouve, ils ont agi plutôt tôt, et c'est bien qu'ils aient pris conscience de ces choses. Après, bon, ils ont dit qu'ils vont créer un consortium, enfin, un groupement. Après, à quoi il va servir le groupement, comment ça va se passer, quelles décisions vont prendre, à quel point les décisions qu'ils vont prendre peuvent être impactantes sur les différents types d'IA qu'on peut avoir aujourd'hui, ça, pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais je pense que c'est une bonne chose que, un, ils en aient pris conscience, et deux, ça veut dire que peut-être il y aura des régulations plus vite et plus rapides qu'on pouvait voir ailleurs. Par exemple, moi, je pense beaucoup aux fake news de l'IA, avec les images qui sont de plus en plus réalistes et mieux générées. Des choses comme ça. Donc, par exemple, vous pourrez avoir des régulations sur l'utilisation de l'IA, marquer sur les réseaux sociaux que quand c'est généré par IA, ça soit marqué, stipulé en clair. Des régulations comme ça. Je sais que ça existe déjà sur certaines plateformes. Genre, je sais que TikTok le fait, où tu es obligé de dire que si c'est l'IA, tu es obligé de dire que ce contenu a été généré par l'IA. Et je pense que c'est une bonne chose et que c'est important d'agir tôt et d'en discuter tôt avant qu'on soit vraiment en plein milieu dans le sujet, dans le gros boom de l'IA. Et qu'on prenne un petit peu d'avance, tu vois. C'est ça. Moi, je trouve ça plutôt bien. Après, avoir ce qu'il y a, les actions concrètes, à voir. C'est ça.
J'aime bien la manière dont tu le présentes. Ils ont pris conscience. C'est peut-être le meilleur moyen de le dire, effectivement. Et c'était pas gagné, c'était pas évident, mais c'est une bonne première étape, effectivement. Mm. À ce propos, il y a, tiens, pour parler un tout petit peu plus d'IA, je voulais juste mentionner le fait que. Quand tu dis les images par IA peuvent être disruptives, évidemment que c'est le cas, mais on se rend compte, notamment dans le conflit en Israël, que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je ne me souviens plus où est mon article, mais je le retrouverai, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que les images générées par IA sont pas hyper convaincantes encore. Généralement, on arrive encore à les repérer. Ça ne sera pas le cas pendant très longtemps, j'imagine, mais on y arrive encore. Mais par contre, l'effet pervers, c'est exactement ce qu'on craignait il y a quelque temps encore. L'effet pervers, c'est que du coup, les gens ne font plus confiance aux images qui ne sont pas générées par IA. Parce qu'on se dit, de toute façon, c'est sans doute de l'IA, c'est peut-être machin. Donc, c'est ça l'effet pervers à ce stade. Donc, c'est presque pire que si on se rendait compte qu'il y avait des trucs créés par IA. Une petite anecdote, puisqu'on parle de régulation. Je voulais mentionner cette interview qui sera dans la newsletter, évidemment, mais une interview avec Lawrence Lessig, qui est notamment l'un des cofondateurs des Creative Commons. Donc, c'est quelqu'un qui est un grand penseur du net, qui a fait une interview avec Nilay Patel pour le podcast de The Verge. Et il a parlé de plein de choses intéressantes sur de l'IA, le copyright, etc., etc. Mais il a mentionné une anecdote sur le copyright spécifiquement et la création du copyright. Il disait, au départ, quand le copyright a été créé, c'était pour protéger les auteurs, et ça concernait spécifiquement les auteurs américains. Les auteurs étrangers n'avaient pas droit au copyright. A priori, on se dit, c'est l'État américain qui veut protéger sa création locale. Très bien. Sauf que l'effet pervers, ça a été qu'il y avait le copyright pour les auteurs américains, donc leurs livres étaient à certains prix, les livres des auteurs étrangers étaient moins chers. Et donc, tous les livres non protégés par le copyright étaient beaucoup moins chers. Et les auteurs américains ont eu, évidemment, un dur réveil et sont allés faire du lobbying, c'est passé très vite, auprès du gouvernement pour dire « Non, tout le monde, le copyright, c'est pour tout le monde parce qu'on ne veut pas juste, nous, avoir ce désavantage économique. » J'ai trouvé l'anecdote vraiment amusante et puis surtout parlante pour parfois des effets un petit peu inattendus d'une décision et qui vont aller dans d'autres dans un autre sens, quoi. J'avais trouvé ça marrant. L'interview dans son ensemble sera présente dans la newsletter, enfin l'interview, le lien vers l'interview. Et en parlant d'IA, le produit créé par Sam Altman, OpenAI, et Johnny Ive, d'Apple, qui s'appelle, comment il s'appelle déjà, je ne me souviens plus, AI Pin, je ne sais pas ce que c'est AI Pin, personne ne sait, mais il devrait être lancé le 9 novembre. Il était censé être lancé le 14 octobre, ou en tout cas présenté, et ça coûte $1 million, ce truc. On ne sait pas ce que c'est, mais ça devrait arriver le 9 novembre. Guillaume, le Bitcoin, au fond des toilettes. Ça ne sert plus à rien, un Bitcoin. Si tu as un billet de Bitcoin, tu peux t'en servir justement dans les toilettes, n'est-ce pas ?
Mais évidemment.
Eh bien non ! Pas du tout ! Le Bitcoin n'a jamais été aussi élevé au niveau de son cours. Il est passé, il y a quelques jours de ça, à $34,000 par Bitcoin. Il était descendu, au fond des toilettes, à genre 20 000 il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Et on se disait depuis, terminer le Bitcoin. Bien, figurez-vous qu'une série de lois et de législations qui clarifient le statut de la crypto-monnaie et a poussé la valeur du Bitcoin et qu'il est remonté au plus haut. Alors, je ne sais pas s'il a déjà été un petit peu plus haut ou si c'est vraiment la valeur la plus élevée.
Ouais, il a déjà été plus haut. Déjà été historiquement, il était monté à 56 000, un truc comme ça, à certains pics. Mais il y a ça y a en 2021, je crois.
C'est ça. Mais il est en train de sérieusement remonter et il est possible qu'il continue. Il est possible que ça s'arrête. Mais du coup, enfin, passer, certes, c'est la moitié de la valeur qu'il avait, enfin un petit peu plus, deux tiers de la valeur qu'il avait à sa plus haute valeur, mais il a quand même presque doublé depuis la plus basse récente. Donc, il ne faut peut-être pas enterrer le Bitcoin trop vite non plus.
Pour des raisons financières, enfin, oui. pour des raisons de valeur, pas pour des raisons de sens ou de ce que ça apporte, oui. On est d'accord.
Ah ben non, bien sûr, bien sûr. Ah ça, c'est, le problème est encore entier, hein, complètement inchangé. On parle un tout petit peu de Twitter. Bon, il faut. Mais il y a des trucs qui se passent. D'abord, oui, comme s'en sont délectés de nombreux internautes, la valeur de Twitter a été divisée par deux depuis le rachat par Elon Musk et les banques qui ont fait les prêts pour le rachat n'arrivent pas à se débarrasser de la dette, ils n'arrivent pas à la revendre, alors que normalement, au bout de quelques mois, tu revends, tu fais une culbute, etc. Ben là, non. Bon, OK. Et c'est le premier anniversaire du rachat, donc évidemment, tout le monde en parle. Il y a d'autres choses, notamment le fait que... Alors, d'abord, Twitter reste le lieu privilégié pour les informations en temps réel. Oui, Mastodon est sympa, oui, Blue Sky gagne en popularité, mais d'une manière générale, pour le sport en particulier et pour les journalistes, eh ben, ça reste Twitter qui est l'endroit où on va. Donc, à voir si ça changera. Hein. Une tendance, ça peut prendre du temps, mais bon. Autre news, je vais en faire quelques-unes à la suite. Il y a désormais deux abonnements possibles à Twitter en plus. Un plus cher, à environ une vingtaine d'euros, 16-20 euros, qui vous donne zéro pub et qui a des petits avantages en plus. Et un abonnement à 3 euros qui ne donne pas de checkmark, qui est un petit boost pour vos publications dans l'algorithme, mais qui garde la pub. Donc, il diversifie l'offre. Bon, de toute façon, les abonnements représentent une part minime des rentrées de Twitter. Ils ont ajouté les appels vidéo et audio entre individus, ce qui n'était pas le cas. J'ai eu accès au truc, j'ai personne avec qui l'utiliser, donc je n'ai même pas testé, mais ça commence à arriver. Il y a des... Comment dire ? Ah, une idée qui n'est pas mauvaise, tiens. Elon Musk a suggéré, enfin même pas suggéré, il a dit que les tweets ou les X, les publications qui auront des corrections par les notes de la communauté ne pourront pas avoir de revenus. Ce qui est pour moi une excellente idée pour inciter les gens qui postent et qui veulent monétiser à le faire avec des informations justes. Sauf que, parce que malheureusement, il y a évidemment un sauf que, bah, les notes de la communauté sont tout aussi gameables que les tweets eux-mêmes. Et donc, je ne sais pas si ça va forcément fonctionner. Mais dans le principe, c'est pas bête, non ? Je trouve ça malin. Vous dites une bêtise, vous gagnez moins d'argent. Quoi d'autre ? Ils ont dit qu'ils voulaient être un service de communiqué de presse, donc X-Wire comme Newswire, etc. Ils ont dit aussi que... qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre ? Ah oui, que d'ici un an, Twitter va remplacer votre banque. Pas juste être un service d'envoi d'argent, mais non, remplacer votre banque, vous pourrez tout faire sur Twitter. C'est Elon Musk qui a dit à ses employés, dans un an, je veux que Twitter remplace les banques. Pardon, que X remplace les banques. Oui, bon, ok, Elon, très bien. Repose-toi, les pauvres employés, on les plaint. Mais bon, ça fait quand même des choses qui continuent à se passer sur Twitter. Enfin, si vous avez envie d'ajouter quelque chose, vous n'êtes pas obligé.
Non, mais X, le fait qu'il veut ajouter les paiements, ça, en fait, ça fait, je ne sais plus où j'avais lu ça il y a longtemps. En fait, le but d'Elon Musk, c'était avoir une galaxie complète X, en fait. C'est pour ça qu'il y a les voitures, il y a le paiement avec PayPal. Je ne sais pas s'il appartient toujours à PayPal, d'ailleurs.
Non, il a revendu.
Il a revendu. Et en fait, le but, il voulait faire une galaxie où tout était X, et un genre d'écosystème à la Apple, tu vois, mais vraiment pour plus social. J'avais lu ça, je sais plus trop où, il y a longtemps, et en fait, je pense qu'en fait, c'est vraiment son but, c'est vraiment de créer un écosystème. Et c'est pour ça que ça part un peu dans tous les sens, comme l'école sur Twitter. Enfin, qui va passer l'école sur Twitter, quoi ? C'est vraiment pas la base.
Les appels, oui, tu veux dire.
Et en fait, ouais, les appels, ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il veut créer vraiment un écosystème. D'où la monétisation, d'où les abonnements payants, d'où la rémunération des créateurs de contenu, tous les petits trucs comme ça, tu vois. En fait, je pense qu'il veut vraiment créer un écosystème. Est-ce qu'il va y arriver ? Je sais pas, je suis pas devin, mais peut-être. Mais je pense que c'est vraiment son but de créer un vraiment petit écosystème social à lui, simplement, je pense.
Alors oui, effectivement, c'est une super app qu'il veut créer, comme WeChat ou Line ou ces applications où on peut tout faire sur ces apps. Alors le contexte pour ces apps est différent, hein, en Asie, en particulier en Chine. Mais peut-être qu'il y arrivera. À vrai dire, tout ce qu'il fait là depuis le début, si seulement il n'était pas... Si on pouvait avoir Elon Musk, le côté génie, sans le côté à moitié fou... Ou complètement fou, ça serait super.
Je dirais pas fou, je dirais impulsif plutôt.
Ouais, impulsif et bon, peut-être que fou est un petit peu judgmental, mais le côté, bon, soyons très honnêtes, le côté politique d'extrême droite, qui est vraiment un côté politique d'extrême droite, s'il n'y avait pas ça, et s'il faisait, je suis convaincu, c'est un exercice de pensée intéressant, s'il prenait exactement les mêmes décisions, s'il faisait les mêmes annonces, on dirait exactement ce qu'on disait à l'époque de Tesla et de SpaceX. On dirait, ouais, bon, il promet, mais ça va arriver peut-être plus tard. Mais il y a un truc intéressant. Là, il y a un truc, pourquoi pas là. Alors que maintenant, qu'on connaît le vrai fond du cerveau d'Elon Musk et que c'est un petit peu un égout, on se dit, oh, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais ça, non, jamais de la vie, quelle horreur, machin. Bon. Bref. qu'est-ce qui se passe ? Encore des trucs dans différents pays ? La loi Online Safety Bill en Angleterre a été passé. En gros, ce qu'ils veulent, c'est que l'aspect principal de la loi, c'est qu'il y en a deux. D'une part, il faut que les sites interdits aux moins de 18 ans confirment l'identité des gens qui y accèdent. Comme on l'a vu par ailleurs, et notamment en France, comment vous démerdez. Démerder. Évidemment, ça pose les problèmes d'identité. Est-ce que tu veux livrer ton identité à qui, à quoi, comment, pour consulter un site porno ou ce genre de choses ? La loi dit, vous faites un truc. Et puis, un autre aspect qui est un petit peu plus problématique encore, puisqu'il impose aux réseaux de communication, aux services de communication, de livrer les données que demanderaient les services de police. Et donc, ça met en danger le chiffrement. Et ça, c'est évidemment très problématique. C'est une question qui revient régulièrement dans la loi, dans toutes les lois, parce que, évidemment, d'une certaine manière, je comprends les services de police qui se disent, mais vous vous rendez compte, si on pouvait avoir accès aux données de ce criminel ou aux données d'un suspect, on pourrait résoudre ce crime et protéger les gens. Je comprends cette idée, effectivement. Mais la contrepartie, c'est, bah oui, mais si tu commences à avoir accès aux données de tout le monde... Il n'y a plus de vie privée, et ça pose des problèmes aussi pour tout un tas de raisons. L'exemple que je donne souvent, c'est il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais oui, mais la vie privée, moi, je m'en fous. J'ai rien à cacher, machin, j'ai rien à cacher, c'est classique. » J'ai rien à cacher. Est-ce que vous comporteriez exactement de la manière dont vous vous comportiez si vous aviez des caméras des services de police chez vous ? Vous ne faites rien d'illégal. Peut-être que vous êtes en caleçon, que vous grattez les testicules de temps en temps sur votre canapé, si vous saviez qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. Non, je plaisante avec ces images crasses, mais si vous saviez qu'il y avait, s'il y avait des caméras chez vous, vous comporteriez, je pense, différemment. Et là, c'est ça le principe de la vie privée. La liberté d'être comme on veut. Et quand on est tout le temps observé, quand on sait qu'on peut être tout le temps observé, peut-être qu'on se comporte différemment et que ça va trop loin. Donc, je comprends un petit peu les deux côtés, mais jusqu'à maintenant, j'ai plutôt été du côté des gens qui veulent protéger un minimum de vie privée.
Concernant l'accès au porno pour les adultes, c'est d'autant plus déroutant que tous autant qu'on est, on ne peut que être choqué de voir des enfants d'âge vraiment très bas accéder de plus en plus tôt, d'après les études, aux images porno, quoi. Et les témoignages vont dans ce sens-là. Et pour autant, tous, autant qu'on est, on est estomaqué par ça. Mais vraiment, la question se pose de techniquement, quelle solution viable on va trouver, si tant est qu'il en existe une. C'est vraiment une question, je trouve, qui est un vrai défi pour notre société. Et le fait qu'on n'ait pas réussi à trouver de solution est tout à la fois effrayant et parfaitement rassurant par certains aspects, je trouve. Mais bon.
Cécile, la tech, l'innovation... réussit quand même à faire des choses invraisemblables et certainement des problèmes auxquels on ne pensait pas avoir de solution. Et puis, quand on travaille assez au problème, alors pas, on ne réussit pas à résoudre tous les problèmes, mais on trouve des solutions incroyables à certains qu'on imaginait sans solution, y compris dans le domaine enfin, du chiffrement. Où, bon, là, on parle d'accès au contenu interdit au moins de 18 ans. Est-ce que, j'imagine bien que tu ne vas pas nous trouver une solution là tout de suite, mais si je te demande, est-ce que l'idée que le gouvernement dit, écoutez, vous êtes les magiciens tech, c'est vous. Moi, je ne sais pas comment vous faites, mais vous vous démerdez, c'est un vrai problème, c'est un vrai problème de société. Vous démerdez, vous trouvez une solution à ça. Alors peut-être que ça ne réussira pas, mais est-ce que ce n'est pas, d'une certaine manière, un moyen non seulement de motiver des solutions techniques et peut-être d'investir dans la recherche de solutions techniques et puis de pousser à l'établissement d'une solution qu'on n'imaginait pas avant. Je parle pas du chiffrement. Hein. Le chiffrement, c'est encore un autre problème. Tout le monde se penche dessus. Mais vraiment, l'accès aux sites interdits en moins de 18 ans. Est-ce que c'est pas une bonne méthode de dire « Démerdez-vous, je veux pas en entendre parler
». Alors, moi, de toute façon, moi, je pars toujours du principe que si tu veux trouver quelque chose, tu le trouveras. Donc, même si tu bloques le top 5 sites France, il existe des milliards de sites, et même des sites qui sont pas faits pour ça. Reddit, tu trouves. Et Reddit, ils vont pas dire.
Pardon, juste pour clarifier, tu veux dire que même si on bloque l'accès à certains sites, il y aura toujours des moyens pour les enfants, notamment, de trouver accès, de trouver ces contenus-là. D'accord.
Tu auras toujours quelqu'un sur Internet qui va faire un miroir, ou qui va poster ailleurs, qui va spawn des nouveaux sites. Tu en as tous les jours des nouveaux sites sur Internet. Hein. Et après, il suffit que tu sois bien référencé. Moi, je pars du principe que tu cherches un truc, tu vas le trouver. Enfin, pas forcément. Toujours, mais tu vas trouver au moins l'essentiel de ce que tu cherches. Tu vois de quoi je parle.
Oui.
Moi, en fait, moi, je suis très utopiste, et je sais que ça arrivera jamais. Moi, je pense que c'est pas un problème technologique, moi, je pense que c'est un problème social, et qu'en fait, il faut éduquer les gens. Le sexe, ça existe. C'est toi, en tant que parent, éducateur, machin, de dire, ça existe, mais c'est pas une raison pour aller le voir, tu vois. C'est lui parler clairement. Enfin, je suis pas parent et je veux pas le devenir. Enfin, c'est pas dans mes plans pour l'instant. Mais si j'avais quelqu'un de 10-11 ans à éduquer, je lui dis, de toute façon, il va le trouver tôt ou tard. Ses potes, ils vont dire, tiens, regarde, j'ai trouvé un truc marrant et tout. Donc, quoi que ce soit, ça va arriver. C'est pas possible de l'empêcher complètement. Donc, si tu peux pas l'empêcher complètement, il faut éduquer. Et tu lui dis, écoute, ça existe. Mais c'est pas une vraie réalité, c'est pas quelque chose de... Je vais pas dire pas bien, mais tu vois ce que je veux dire.
Oui, je comprends.
Tu vois,
c'est pas la réalité, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe.
C'est ça, c'est exactement. Et pour moi, je suis super utopiste hein, sur ce sujet-là, mais pour moi, c'est pas un problème technique, c'est un problème éducatif et social plus généralement. Mais c'est mon utopie, j'aimerais bien vivre dans le monde des bisounours.
Je comprends, non, mais c'est bien aussi d'avoir un petit peu d'idéaux de temps en temps. T'as habilement sidesteppé ma question, c'est très bien, bravo, elle n'est pas facile. Mais qui sait, qu'est-ce que j'entends arriver là ? C'est l'avocat du diable. Du coup, si on suit ta logique, Cécile, je te pointe du doigt. Madame Ataxia, écoute, le crime, les meurtres, ça existe ? On ne va pas s'emmerder à rendre illégaux le fait de tuer quelqu'un. Il faut juste éduquer les gens. Et puis, on sait bien que ça va... Si tu veux tuer quelqu'un, tu réussiras. Tu achètes un couteau chez Ikea. Ça, c'est parfaitement adapté au meurtre de quelqu'un. Ouais.
Il y a une petite mesure, tu vois. Genre, tu vas regarder ton pendant ton lit. Tu vois, tu fais pas du mal à personne. Alors que si tu vas tuer quelqu'un, tu fais du mal à quelqu'un. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je vois les choses. Regardez du porn, c'est pas interdit, c'est pas faire du mal à quelqu'un, c'est bon, si ça fait plaisir, soit, voilà. Mais il faut que les enfants soient informés, enfin, pas super jeunes non plus. Enfin, je suis pas expert sociologue, machin, mais pour moi, il faut au moins être informé.
Mais les deux sont pas exclusifs. Tu vois, on peut pousser les gens à éduquer. Je sais pas, tu disais quelqu'un qui a 11 ans, Guillaume a un enfant de 11 ans.
Ah merde.
Est-ce que il suffit pas d'éduquer ton enfant et de lui dire...
C'est pas suffisant. Oui. Ah, c'est évidemment pas suffisant, mais évidemment, tu as entièrement raison, Cécile. Évidemment que ça passe par là. Quand moi, j'ai mon fils qui me parle de ce genre de truc, déjà, je me dis « Waouh, il m'en parle ». Si en plus, il me dit « Ah, là, ça me dégoûte, ça m'intéresse pas, je cherchais One Piece, moi, j'ai pas trouvé ce que je cherchais », bon, ça me va aussi très bien, et puis c'est l'occasion de discuter. Il me fait des témoignages aussi de certains de ses copains au collège, en sixième, qui sont extrêmement à l'aise avec ça. Lui, ça le dégoûte. Et il y a évidemment toutes les questions questions liées à l'effet de groupe, à la société, qui sont autant d'éléments qui rajoutent de la complexité. Et là, on est en train d'essayer de clarifier un sujet, mais qui est, comme beaucoup de sujets, malheureusement, trop compliqué pour être géré et résolu en quelques minutes de discussion sur un podcast. Moi, je ne peux pas me satisfaire de me dire que mon fils, simplement en tapant une requête sur un appareil, alors que je pense avoir fait un certain nombre d'efforts de limitation sur l'accès au contenu, avec des contrôles parentaux, etc., parvient, mais en toute facilité, à accéder à des trucs comme ça. Et pour autant, je ne souhaite pas avoir une garantie technique d'interdiction totale. Je sais que ce serait pas non plus souhaitable d'un autre côté. C'est suffisant.
Après, il y a des solutions qui existent déjà. Hein. Tu as les contrôles parentaux. Je sais que Cloudflare avait fait un DNS qui permettait d'effacer certaines requêtes sur des sites X en particulier. Il y a déjà des solutions techniques qui existent, mais qui ne sont pas encore imposées et qui ne sont pas imposées par une loi, en fait, surtout.
Ouais, puis c'est nier le fait que, comme tu le dis, tu trouves toujours la solution. Je veux dire, dans un cours d'école, voilà, les copains, ils sortent leur smartphone, ils contrôlent les trucs. Bon, écoute.
Ouais, je crois que le fait qu'une loi soit détournée n'est pas... Bon, là, je vous dis mon avis, même pas en tant qu'avocat du diable. On nous dit dans la chatroom, NextDNS, qui était un sponsor de l'émission il y a quelques temps, mais dont je parle parce que c'est exactement ce dont on parle. NextDNS, c'est hyper pratique parce que... Mais c'est un peu technique, tu vois. Tu dis, oui, bah, c'est facile, tu fais NextDNS,
machin. Oui, bien sûr.
Il faut s'y connaître.
Faut être un peu technophile, je suis d'accord.
NextDNS, c'est le fait de contrôler son DNS par un service tiers. Donc, tu peux dire, alors moi, je mets la DNS de NextDNS et je décide ce qui va retourner un résultat, ce qui va rediriger vers quelque chose. C'est hyper pratique, c'est bien fait, mais c'est un peu technique, effectivement. Les gens qui nous écoutent, peut-être, auront les connaissances pour gérer ça. Mais d'une manière générale, ce que je dirais, c'est le fait qu'une loi puisse être contournée, ce n'est pas une raison pour ne pas la faire.
Exactement.
Et même, limite, je dirais, ce n'est pas plus mal qu'il y ait des lois et des interdits dont on sait qu'ils vont être contournés, parce que t'as le petit sentiment je trouve pas mes mots aujourd'hui.
Braver l'interdiction, gros.
Voilà, de braver l'interdiction sur des trucs qui sont pas trop graves.
La défiance.
Plutôt que sur les... Voilà. Bon, allez, on conclut avec un truc qui sera aussi dans la newsletter. Il y a une autorité d'immigration américaine qui utilise un logiciel qui s'appelle Ghost, qui est un outil pour déterminer si un candidat à l'immigration a eu des propos négatifs sur les États-Unis, sur les réseaux sociaux. Et donc, tu dis, oui, bon, bah, il y a les réseaux sociaux. Si quelqu'un dit « mort aux États-Unis », effectivement, tu vas dire « alors pour l'immigration, ça va être compliqué, machin ». Sauf que le logiciel, il te renvoie une réponse qui n'est pas « alors il a dit ça, ça, ça et ça », c'est « recommandé » ou « non recommandé », ce genre de terminologie. Et à l'intérieur de l'algorithme, tu ne sais pas du tout comment ça fonctionne, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il fait, machin. Et donc, ça pose un problème aujourd'hui. Enfin, c'est un mini-scandale, hein, même pas, mais c'est l'une des utilisations intéressantes de ce type d'outils qui sont problématiques, non pas, je crois, parce qu'on l'utilise, mais parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Donc, on ne peut pas se défendre, on ne peut pas... Toujours aux États-Unis, la Californie a suspendu... Et vous l'avez peut-être vu dans quelques news. Transgression ! Merci, Guillaume. Enfin, l'autre Guillaume. Un autre Guillaume. Transgression, c'est ça. A suspendu le permis de voiture autonome sans chauffeur de sécurité de Cruise, l'initiative de General Motors. Et c'est pas vraiment parce que la voiture a vraiment été... Enfin, les voitures ont été hyper problématiques. En fait, il y a eu un accident où une personne s'est fait renverser par une autre voiture, s'est fait percuter par une autre voiture, et la voiture sans conducteur de Cruise est venue dans l'autre sens, et malheureusement, je suis désolé pour l'image graphique, a roulé sur la personne qui s'était faite renverser, et ensuite, en décision normale, a voulu se garer pour, après le choc, se garer pour s'écarter du trafic. Sauf qu'évidemment, il n'y avait pas de caméra en dessous. Donc évidemment, la personne en question, je ne sais pas si elle est morte, mais en tout cas, a été encore plus blessée par la manière dont ça s'est géré. Et en plus, Cruise n'a pas envoyé toute la vidéo aux autorités qui vérifiaient le problème et qui accordaient les permis, enfin au DMV, Department of Motor Vehicles. Donc aujourd'hui, le DMV a retiré le permis à Cruise en Californie. Cruise a interrompu les opérations de voitures autonomes sans conducteur de sécurité partout aux États-Unis, mais les autres sociétés sont toujours en opération et le DMV n'a pas retiré le permis aux autres sociétés. Puis surtout, c'était ce problème-là spécifique. Et donc, les tests continuent, on va dire. On parlait il y a quelques semaines du fait que les tests ont commencé. Ben, ça continue, malgré cet incident qui, quand on le lit un petit peu rapidement, pourrait laisser penser que, oh là là, en fait, les voitures autonomes, ça ne marche pas bien du tout. Et une dernière chose, on parlait de la crypto-monnaie, du Bitcoin tout à l'heure. SBF, parlait il y a quoi, 2 mois, Sam Bankman-Fried et FTX, qui sont tombés de leur gloire il y a quelques mois et qui avaient eu de gros problèmes. C'était l'un des gros exchanges de crypto et qui avait été très mal géré, voire de manière criminelle par SBF, Sam Bankman-Fried, qui avait créé un coup de tonnerre dans cette industrie. Juste pour dire, j'en parle pas, parce que chaque semaine, on a un nouveau truc sur le procès, le machin. Et bien, le procès continue et ça sent pas bon du tout pour SBF. Pas bon du tout, du tout. Il semblerait qu'il ait effectivement... Enfin, je veux pas parler, on en parlera quand le procès se terminera, mais il semblerait qu'il ait effectivement fait des choses un petit peu limites avec sa société. Et il semble qu'il risque de passer le reste de ses jours en prison. Donc, maintenant, vous êtes au courant. On dit... Dans la chatroom, on pose la question par rapport aux voitures autonomes. Qui est responsable du coup ? C'est une très bonne question. Qui est responsable ? La voiture autonome, bah, c'est pas elle qui a percuté, mais elle a roulé sur la personne qui s'était faite percuter. Mais c'était un cas de figure qui évidemment ne pouvait pas être prévu par le logiciel de conduite. Mais en même temps, les voitures autonomes, elles ont moins d'accidents que les voitures pas autonomes, possiblement. La question de la responsabilité, c'est la question, je pense, qui va nous occuper en tant que société pendant les années à venir sur ce type de véhicule. Là, ce serait bien. Enfin, bon, ce qui est sûr, c'est que la voiture a roulé sur la pauvre personne qui était accidentée et que là, sur cet incident spécifiquement... J'imagine que c'est la société qui gère la voiture qui est responsable de cette partie de l'incident. Oui. Est-ce que ça veut dire que... Merci à tous les deux d'avoir été avec moi pour cet épisode palpitant. Cécile, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Tu parlais de ton blog, de ton site.
Alors, principalement tout. Sur Twitter, sur le hashtag @TaxiaNetwork. Et après, sur ataxia.net, c'est un site où je regroupe tous mes sites et vous retrouvez mon Blue Sky, mon YouTube, mon blog, tout ça, tout ça. Mais principalement sur Twitter.
Ataxia.net. On mettra le lien vers ton Twitter dans les notes de l'émission. Je me demande s'il ne faudrait pas qu'on mette les liens vers d'autres réseaux. Il y a beaucoup de gens qui partent de Twitter. Oula, j'ai tapé mon bureau. Super, ataxia.net. Merci à toi. Guillaume,
merci
où te retrouve-t-on ?
Écoute, un peu partout, je pense, quand vous tapez Guillaume Vendée, s'il y a quelqu'un qui apparaît, qui a plus ou moins ma trône, c'est peu probable que ce soit une usurpation. Je ne suis pas suffisamment connu pour ça. Sur Blue Sky, je m'appelle guillaumevendée.fr aussi. Tu vois, j'ai réussi à mettre mon pseudo DNS, enfin mon nom de domaine, pardon, perso, dessus. Et voilà, vous me retrouvez sur Blue Sky, sur Mastodon, sur Twitter, un petit peu partout. Et en podcast dans Tech Café, si vous voulez encore parler de tech.
guillaumevendée.fr et techcafé.fr. Je n'avais jamais consulté ton site guillaumevendée.fr.
Oh là là.
Des podcasts et de l'enthousiasme. Ah. Magnifique.
Eh oui,
c'est beau.
Est-ce que c'est pas ce qui me définit finalement ?
Je pense que la beauté de ta scène de webcam est une définition encore plus claire de l'essence de ta joie. Non, je ne sais pas si ça marche.
Ah, c'est beau.
Merci à tous les deux pour ma part. Mais moi, tu vois, je suis hyper terne sur la vidéo à côté. Je me rends compte que ça va pas du tout là. Bon. Merci à tous les deux pour ma part. C'est NotePatrick un petit peu partout. Les liens vers tout ce que je fais sur NotePatrick.com. Je suis NotePatrick sur Blue Sky, sur YouTube, NotePatrick Podcasts pour les replays. Sur Twitch, je suis NotePatrick en live tous les mardis pour le rendez-vous tech et les jeudis pour le rendez-vous jeu. etc., etc. La newsletter, vous pouvez vous abonner sur notre Patreon. Enfin, il y a tous les liens dans les notes de l'émission. Hein. Donc, je vous dis des points com et des points trucs. En réalité, c'est dans les notes de l'émission ou sur notepatrick.com. C'est très simple. Vous retrouvez le Rendez-vous Tech tous les mardis, midi en live et à 16h en podcast. On dit 16h, en fait, on est là un petit peu avant. Oui, Mastodon, bien sûr, notepatrick, @mastodon.social, évidemment. Et le rendez-vous jeu tous les jeudis midi. Et si vous voulez soutenir cette émission, c'est sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure, quand on arrive chez soi, qu'est-ce qu'on fait ? Guillaume, première chose que tu fais quand tu ouvres la porte ?
Alors, je ne vais pas t'aider, Patrick, parce que j'ai une serrure connectée.
Guillaume, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives chez toi ? Tu ouvres la porte ?
Évidemment, j'ai mes clés et j'ai un bol qui fait cling et je mets les clés dans le bol, ça fait cling. Et là, je me dis, mais Patrick, mais bien sûr, Patrick.
Merci, il a bien compris. Bravo, Guillaume, ta serrure connectée. On en reparlera peut-être un jour, le jour où elle fera cling, elle aussi. Donc, Patreon.
N'achetez pas ça.
Non, c'est pas bien les serrures connectées.
C'est très bien, mais ça se conseille pas. C'est pas bien. Si ça lâche, c'est l'enfer.
Mais c'est très bien. Il semble parler d'expérience. Patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Merci Guillaume, merci Cécile, merci à tous de nous avoir écoutés et à dans une semaine. Ciao, ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.